Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
17h10, on repart tout de suite à Bahreïn avec un coup dur, un coup du sort pour Charles Leclerc qui allait monter sur le podium et qui vient d'abandonner, Jean-Luc.
Ah oui, là c'est terrible effectivement, puisqu'on avait compris qu'il n'y avait aucun moyen de lutter à la régulière contre les Red Bull. Et bien Charles Leclerc, qui visait au moins la deuxième place, s'il pouvait la reprendre à Pérez, c'est terminé. Il vient d'immobiliser sa monoplace sur le côté de la piste dans le deuxième secteur. On a sorti évidemment le virtuel safety car, les positions sont figées. Eh bien, c'est, on peut déjà le dire, un triomphe pour les Red Bull et quelque chose qui pourrait ressembler à une reddition pour les Ferrari. On va essayer d'écouter ce qui s'est passé.
C'est un problème moteur ou c'est un...
Oh oui, c'est un problème mécanique. Hein. Bon, boîte de vitesse peut-être.
Denis, ça peut être quoi?
Il n'y a pas de fumée déjà. Ça pousse.
Il y a une perte de puissance soudaine.
Électrique. Ces voitures sont tellement compliquées dans des conditions qu'on ne peut pas imaginer. Tout peut mettre en panne une voiture comme ça. Donc,
Il s'est bien garé en tout cas. Charles Leclerc, il a fait presque un créneau pour garer sa voiture. Il n'y a pas de risque. Il descend de sa monoplace, évidemment très déçu. Très mauvais début de saison malheureusement pour Charles Leclerc, qui espérait aller rivaliser avec Verstappen, avec Perez, avec les Red Bull. Mais les Red Bull réalisent pour l'instant un sans faute et vont aller chercher tous les points possibles dans quelques minutes.
Absolument, Christophe, là il n'y a rien à dire. On avait compris qu'en termes de performance, malgré le talent de Charles et une stratégie différente, on a essayé de compenser, mais non, les Red Bull sont absolument intouchables en ce début de saison. On va d'ailleurs, par sécurité semble-t-il, arrêter un des pilotes, puisqu'on est prêt à ravitailler du côté de chez Red Bull. On va attendre un petit instant, si tu veux bien, pour surveiller
ce qui se passe. On peut s'arrêter, manger un sandwich et repartir. Il aura toujours un peu d'avance.
On est sous régime de safety car. Alors là, je peux te le dire, l'arrêt au stand ne coûte que 15 secondes, alors que quand on est sous régime de drapeau vert, c'est 22 secondes et demie. Donc on en profite et puis on aperçoit le visage dépité de Charles Leclerc, évidemment, sur le bord de la piste. La saison commence bien mal. On rappelle qu'il l'avait emporté ici même il y a un an à la suite de problèmes mécaniques qui avaient affecté les deux Red Bull. Donc là c'est l'inverse.
Un abandon qui va en revanche faire les affaires de Pierre Gasly qui rentre dans les points pour l'instant.
Gasly est 10e, donc remontée fantastique depuis la 20e place. Alors attends, pour le moment il est dans les roues d'Albon, il a peut-être la 9e place en vue, mais il a du monde derrière. Il y a également De Vries qui est tout près derrière avec l'une des McLaren.
Très bien, on suit la fin de course avec vous dans un instant, mais nous repartons tout de suite pour Lyon. On va tout de suite parier d'abord sur ce Lyon-Lorient avant qu'il y ait un premier but, sait-on jamais. Allez, les paris. Il n'y a pas d'habillage, donc on parie directement avec Johan Guillet. Salut Johan. Les codes sèches, on demandera juste son avis à coach quand même, parce qu'il a sans doute des choses à nous dire. Ah, le micro, on va ouvrir le micro, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté là-bas. Ah, voilà, ouais,
c'est parfait. Est-ce qu'on m'entend cette fois?
On t'entend parfait.
C'est parfait. Elles sont déséquilibrées, ces cotes, forcément. 1,50, la victoire de Lyon, 3,60, le nul, 4,60, le succès l'orienté.
Roland?
Disons que je pense que Lyon devrait, je pense que Lyon va gagner ce match-là, dans le pire des cas, ne pas le perdre, mais je peux faire deux tickets. Lyon qui gagne avec plus de 1,5 dans le match, et Lyon qui perd pas avec les deux équipes qui marquent.
Lyon qui gagne avec plus de 1,5, c'est coté à 1,80, et Lyon qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,90.
Merci Johan. 17h13 sur RMC, on part justement retrouver Edouard et Jérémy qui sont à Lyon pour ce match entre Lyon et Lorient qui a débuté il y a pas tout à fait 10 minutes, messieurs.
Exactement, 9 minutes et 20 secondes pour être précis, toujours 0-0 avec des Lorientais qui ont le ballon dans une entame de match pour l'instant quelconque. Hein. Pas de rythme, en plus à un moment donné...
Avec le Grand Prix, on n'a pas pu, excuse-moi, entendre la composition des équipes, pas de surprise.
Alors justement, on allait juste après décrire cette action-là. juste après décrire cette action là où Bambang Dieng a reçu le ballon sur un dégagement séché. Il était séché sur place. Du coup, déjà, il n'y avait pas beaucoup de rythme sur l'entame de match et ces 3 minutes d'arrêt de jeu ont rajouté un petit peu n'ont pas accéléré le jeu. Alors au niveau des compos, donc du côté de Lyon, c'est Rémi Rioux donc dans les buts, Diomandé, Lovren, Luque Bataglia-Fico pour la défense de droite à gauche, Tolisso avec Le Penant en milieu récupérateur, avec Maxence Cacré dans ce milieu un petit peu plus devant, Ryan Cherki côté gauche, Amin Sarr en pointe et Bradley Barcola côté droit. Voilà pour la composition donnée par Laurent Blanc du côté de l'OL.
Et du côté lorientais, c'est Vito Banonnet qui garde les buts des Berlus ce soir. De droite à gauche, la défense à 4, Gédéon Kaloulou, Bamo Omeite, Montasser Talbi et Vincent Le Goff. Laurent Bergel, le capitaine à la récupération avec Jean-Victor Makengo, et l'indispensable Enzo Lefebvre, 26e titularisation en Ligue 1 en 26 matchs cette saison. À droite, Stéphane Diarra, à gauche, Johan Kathleen pour encadrer l'attaquant de pointe Bamba Dieng.
Jérémy, t'aurais pas un petit peu de rhum pour faire un petit grog à Edouard, non? T'as pas un truc?
Pourquoi tu trouves que ça?
Je sens que la voix va pas tenir les 90 minutes. Moi, je sais pas.
Elle a tenu hier soir à Annecy.
Ah, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Aller faire la fête à Courchevel jusqu'à point d'heure, c'est plus de ton âge.
Bah ouais, exactement. Ouais.
À tout de suite, messieurs, on revient vers vous.
0-0 toujours.
Allez, on repart à Bahreïn pour les derniers tours de ce premier Grand Prix de la saison. On fait un point avec toi, Jean-Luc. Et Denis, on rappelle, Denis Chevrier, ancien responsable moteur de Renault qui nous accompagne depuis plusieurs saisons maintenant. Denis qui espérait, comme nous tous, assister à un premier Grand Prix avec beaucoup de suspense. Pour l'instant, on en est pour nos frais. Hein.
Ah, complètement. Alors, on ne va pas se mentir. Complètement. Et la démonstration continue. Et Verstappen et domine Perez. Et les Red Bull dominent tout le monde.
Et ouais. Jean-Luc, il a fait une tête. Alors, si vous voyez sa tête, il est complètement dépité.
Écoute, on a le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Voilà, c'est la conclusion.
Ça rappelle un peu Schumi à sa grande époque ou Hamilton aussi.
Il faut reconnaître que là, malgré, donc, on va le dire, les pénalités qui ont affecté logiquement
l'équipe. Oui, on lui a mis des choses trappes quand même.
Voilà, on lui a mis des choses trappes. Dépassement de budget, donc on a réduit effectivement le nombre d'heures en soufflerie, etc. et le nombre d'études. On a réduit également, parce qu'ils sont premiers du championnat, ils avaient droit à moins de temps d'études et de temps de travail. Eh bien, il n'y a rien à faire. Là, en plus, c'est intergroupé. Hein. Verstappen est au commandement avec 10 secondes d'avance sur Perez. Carlos Sainz est troisième. Et malheureusement, on a assisté donc à l'abandon de Charles Leclerc et de la Ferrari. Alors, je souligne quand même derrière, si vous voulez bien, Alonso au pied du podium.
Alors, justement, voilà. Parlons-en, Jean-Luc, parce que Alonso est en pleine forme. Le taureau des Asturies, qui, après avoir doublé tout à l'heure Lewis Hamilton, est en train de mettre la pression désormais sur la Ferrari, la seule Ferrari encore en course. Celle de Carlos Sainz.
Exactement, Christophe, il y a au moins un élément sur lequel on ne s'est pas trompé, et bien c'est la forme des Aston Martin, en l'occurrence un Alonso, mais vraiment rajeuni, il n'y a pas d'autre
mot,
à qui pourrait monter sur le podium là, parce qu'on voit mal comment il résisterait, la Ferrari qui est un petit peu en gestion de pneumatique, et les temps en attestent, et je rappelle qu'Alonso est l'auteur du meilleur temps en course, 1:36.156 pour le moment. Il est remonté, mais comme une balle, littéralement, après son dernier aérostand, au 34e
tour. Il n'a pas perdu son coup de volant, hein, Fernando. Ah non,
c'est génial, c'est génial. Là, il est deuxième jeunesse pour le taureau des Asturies, c'est ce qu'on disait.
Voilà, il est en train de mettre la pression à Carlos Sainz. Va-t-il réussir à le passer? En tous les cas, il reste quoi? Il reste un peu plus de 12 tours encore pour l'Espagnol sur son Aston Martin. On rappelle qu'il vient de changer d'écurie et que dès le premier Grand Prix, il est performant au volant de cette Aston Martin. Lui, le vieux, 41 balais, plus performant que son jeune équipier et propriétaire de l'écurie.
Absolument. Alors, Lance Stroll, à sa décharge, il n'avait pas pu participer aux essais la semaine dernière.
Mais le Grand Prix d'une main.
Voilà, et ça y est, il passe. Quelle attaque! Oh là là là, c'est fantastique, là, en profitant évidemment du DRS, mais c'est imparable. Alors, Sainz va essayer de se défendre, mais là, je crois qu'il n'a pas les moyens. Donc, Fernando Alonso, pour le moment, sur le podium virtuel, à une dizaine de tours de l'arrivée de ce Grand Prix de Bahreïn. Ben voilà la confirmation de la forme d'Aston Martin et la justification du changement d'équipe. Alors que, malheureusement, au même moment, même si Pierre Gasly a remonté 9e.
Ouais, ça y est, il est passé à la 9e place.
Ça y est, il a 2 points. Donc, c'est un bon résultat pour lui. Un un excellent résultat, mais le pauvre.
Je crois qu'il vient de réaliser le meilleur temps en course en plus, Pierre Gasly.
Oui, et Esteban Ocon, lui, a dû se retirer avec un problème technique là à l'instant.
Donc, on rappelle que la bagarre va faire rage entre les deux, Denis. Hein, on sait que là aussi, les résultats vont peut-être aiguiser la hargne ou la fougue de l'un et de l'autre. Là, pour l'instant, avantage à Gasly, alors que lors des qualifs, c'est Ocon qui avait réglé son compte à Gasly. Hein.
Oui, mais je crois que l'équipe le cite très souvent. Ils vont compter sur la justesse professionnelle de ces deux pilotes d'une intelligence, je crois, qui n'est pas à mettre en cause. Donc, je crois qu'ils vont effectivement essayer de faire progresser cette voiture,
Denis,
parce que c'est clair qu'il va en avoir besoin.
Toi qui connais les pilotes de Formule 1 comme ta poche, est-ce que franchement, tu penses qu'ils vont réussir à les garder comme ça en cage pendant toute la saison, qu'il n'y a pas un moment ou un autre, ils vont se mettre une petite peignée quand même?
Ah bah si, ils y arrivent pas, c'est qu'ils ont fait une erreur de casting, parce que il faut pas que ça arrive, c'est-à-dire que il faut pas que
sans se toucher, sans envoyer les voitures dans les barrières de sécurité, mais on espère quand même une petite
bien sûr
le premier adversaire d'un pilote, c'est son équipier.
Ah complètement, mais il faut pas que celui qui fait 12e soit content parce que l'autre a fait 14e, et c'est là que ça devient très malsain. Si effectivement on parle d'une émulation, c'est ce qu'on peut espérer, et ces deux pilotes sont capables de l'avoir entre eux. Donc c'est ce qu'il faut souhaiter, et surtout que l'Alpine progresse en perfo. Là, elle est un petit peu décevante quand même.
Bien sûr, on rappelle donc pour l'instant Pierre Gasly 9e, alors que Ocon, lui, a dû abandonner la course. Le foot, on y retourne à Lyon avec Jérémy Donzé et Edouard G pour ce match entre Lyon et Lorient. Oh là là, trépidante rencontre pour l'instant, messieurs.
Oh là 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 là. Ouais, si tu pouvais nous donner un petit peu d'accélération que vous avez avec vos Formule 1, parce qu'il y a 0-0, 16 minutes de jeu. Mais Jérémy, aucun tir, aucune action, rien quoi en fait.
Non, feuille de stade complètement vierge pour l'instant avec ce ballon au début de match quelconque de part et d'autre, et notamment de la part des Lyonnais. Un vrai match malheureusement du ventre mou entre le 10e et le 9e cet après-midi. Les deux équipes qui ont reculé d'une place après la victoire de Reims. Lyon qui se doit évidemment de l'emporter pour continuer à espérer une place européenne via le championnat, puisqu'on a suivi cette semaine la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. C'était face à Grenoble, ce sera dans un mois sur la pelouse de Nantes. En attendant, il y a évidemment ce match très important face à Lorient pour espérer remonter, grignoter encore une partie du retard sur le top 5, mais c'est mal parti, c'est mal engagé en tout
alors
cas.
Maxence Cacré, peut-être une accélération avec Ryan Cherki dans la surface de réparation, il va servir à Minsar, mais il y a le bon retour de Talbi qui va mettre le ballon en corner. Tiens, enfin, on a quelque chose à mettre sur notre fiche technique,
un corner incroyable.
Roland, Christophe,
bah oui.
C'est magnifique. Et il a fallu attendre la 17e minute pour avoir ça. Et ça va être Ryan Cherki qui va s'y coller sur le coup.
C'est Maxence Cacré finalement. Ryan Cherki s'est enlevé de la zone. Maxence Cacré de la droite vers la gauche en regardant les buts de Vito Manone. Ce sera donc sortant pour le milieu de terrain lyonnais. Maxence Cacré au deuxième poteau. La tête de la défense lorientaise est récupérée par Corentin Tolisso et Johan Le Penant. La 17e donc au Groupama Stadium. Et donc toujours ce score 0-0.
Roland, ça va pas t'aider à te maintenir réveillé. Hein. Je sens que t'es parti pour la sieste. Là,
non, je regarde avec curiosité certains petits détails. Un de mes latéraux préférés, là, ce jeune Comendi.
Comendi, encore remplaçant. Ouais.
Ben, donc je regrette à chaque fois qu'il ne joue pas. Alors peut-être je le vois plus gros que ce qu'il est. Après, ben, je reste toujours avec l'idée que Barcola, ben, je le préfère. Ben, c'est chacun ses goûts. Hein. Côté gauche que côté droit. Et Cherki, c'est le contraire, plutôt côté droit que côté gauche.
Oh, la belle passe de Ryan Cherki.
Il y a quand même
Maxence Cacré.
Une grosse différence entre les deux équipes, c'est qu'une a encore l'espoir de la Coupe de France et Lorient, non, c'est tout le contraire, ils n'ont plus que le championnat à s'améliorer.
Allez, 17h23, 0-0 donc pour l'instant entre Lyon et Lorient. Tout petit point sur la course avec toi, Jean-Luc.
Et pour le moment, eh bien, Max Verstappen, alors que 48 tours ont été couverts, il en faudra 57 pour passer sous le drapeau d'Amier. Verstappen compte 10 secondes d'avance maintenant avec sa Red Bull sur l'autre Red Bull de Sergio Perez. On a en troisième position un flamboyant Fernando Alonso avec l'Aston Martin. Aston Martin qui confirme donc le potentiel puisqu'il vient de passer la Ferrari de Carlos Sainz. Sainz qui doit se défendre maintenant des attaques d'un septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui est actuellement cinquième dans le sillage de la Ferrari. Stroll, l'équipier donc d'Alonso chez Aston, est sixième. Russell, l'équipier de Mercedes, l'équipier d'Hamilton chez Mercedes, est septième. Bottas est huitième. Et on souligne la très belle performance de Pierre Gasly, parti dernier, actuellement neuvième. Et c'est peut-être pas terminé, parce qu'il tourne beaucoup plus vite que les hommes qui sont devant lui.
Et pendant ce temps-là, Verstappen a le coude à la portière et fume la pipe en tête de course. 17h24, à tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
17h27, l'Intégral Sport sur RMC, jusqu'à 19h, heure à laquelle vous retrouverez, comme tous les dimanches, Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli pour Bartoli Time. On reviendra sur tous les événements de ce dimanche, notamment ce match entre Lyon et Lorient, le premier Grand Prix également de Formule 1 de la saison. On va y aller dans un instant, mais il y a un coup franc, me semble-t-il, dangereux pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, vous allez pouvoir inscrire des choses sur votre petite feuille, messieurs.
Et on en a inscrit pour l'instant, pas de but,
ah oui,
toujours zéro.
Il y a une belle occasion, il y a quelques minutes.
Il y a eu deux belles occasions, on en reste à 0-0 pour le moment. Et le coup franc de Ryan Cherki en position platinienne ou juninesque, comme vous voulez, suivant votre génération.
26-27 mètres, légèrement décalé sur la gauche pour le pied droit de Ryan Cherki. Vito Manone qui est en train de placer son mur sous les ordres de Thomas Léonard, l'arbitre de cette rencontre. Une occasion de part et d'autre il y a quelques instants. On va se concentrer sur le coup franc. D'abord, le mur est enfin placé. Vito Manone qui se place. Attention, le coup de sifflet. Et Ryan Cherki, ce sera côté ouvert. C'est contré, finalement récupéré par Bradley Barcola. Et il y aura une faute signifiée par Thomas Léonard. Une poussette dans la surface, on va pouvoir se dégager et souffler côté Lorient. La 25e et toujours ce score de 0-0.
Avec deux actions, hein, Christophe, aux 20 et 21e minutes. D'abord, un magnifique ballon de Ryan Cherki dans la course pour Bradley Barcola qui va buter sur le gardien Lorient et Manon. Et puis derrière, presque sur l'action qui suit, Diarra, Stéphane Diarra qui perce vraiment à lui seul tout le double rideau défensif lyonnais qui arrive aux 20 mètres, qui sert, puisqu'il était tout seul, Mbemba Dieng de l'autre côté de la surface de réparation, mais celui-ci se perd un petit peu dans sa course et du coup quand il va pour tirer dans le ballon, bah, il n'a pas le bon équilibre et le ballon s'envole dans l'air de Dessine. On en reste donc à 0-0, mais enfin on a des choses à noter.
Du coup franc, la comparaison avec Juninho et Platini a
s'arrête
à redresser les oreilles de ces deux garçons.
C'était plutôt Juninho ou plutôt Platoche, Roland?
Ah, c'est difficile,
hein. Franchement, c'est deux artistes du coup franc, incroyable.
C'était pour la distance, hein.
Ouais.
Je sais que pour la réalisation, Juninho, toi, Edouard, tu es plus Juninho, évidemment, quand on est lyonnais. Ok, les gars, on revient vers vous dans quelques instants. On va également, ça y est, on y va tout de suite. On va en Angleterre retrouver Johan Bredov pour le derby de l'Angleterre. Tout simplement, c'est le derby de l'Angleterre. Là, il y en a 50 000 des derbies, mais là, c'est le derby de l'Angleterre entre les Reds d'un côté et les Red Devils de l'autre côté. Salut, Johan.
Salut, Christophe. Salut à tous. Exactement le 211e derby d'Angleterre. Tu le disais, la rivalité historique entre les deux clubs. Hein. 50 km seulement entre les deux villes, Liverpool et Manchester United. C'est parti depuis quelques secondes. Là, dans ce derby 0-0, évidemment, je vais vous donner quelques infos compo. On va commencer par Liverpool. Dans son habituel 4-3-3, Jurgen Klopp avec Alisson dans la cage, Robertson, Konaté, Van Dijk et Alexander Arnold en défense. Un milieu à 3 avec Fabinho, Jordan Henderson, Harvey Elliott. Et donc cette attaque, ce trio offensif, Darwin Núñez, Mohamed Salah pour épauler Cody Gakpo qui est arrivé lors de l'intersaison, lors du mercato d'hiver. Et pour Manchester United, David De Gea dans la cage, Luke Shaw, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Diogo Dalot. Un milieu à deux avec Fred et Casimiro, Bruno Fernandes en 10, à gauche Marcus Rashford, à droite Anthony, et donc Wout Weghorst lui aussi qui est arrivé durant l'hiver, qui est aligné en pointe de l'attaque de Manchester United.
Ça me fait des bons joueurs dans ces deux équipes, hein.
Bon, ouais. Voilà. Saison compliquée quand même pour Liverpool.
Il y en a pour meubler quand même, hein, sur la...
Ouais, pas mal, mais du recrutement intelligent. On n'est pas sur Chelsea qui a recruté à tout va. Là, c'est du recrutement intelligent, que ce soit pour Liverpool ou pour Manchester United. Liverpool, je disais, c'est compliqué, mais qui a la possibilité de prendre la cinquième place en cas de victoire et de revenir à 3 points seulement de Tottenham avec un match en moins quand même. Et Manchester United a 9 points de retard sur City, qui compte 2 rencontres de plus. Donc il y a toujours l'idée de rester en embuscade, hein, pour le titre, même si cela paraît compliqué. 0-0 pour l'instant entre Liverpool et Manchester United au bout de 3 minutes.
Tout de suite, on te retrouve, Johan. Les derniers tours de ce premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Bahreïn, avec la victoire qui se profile difficile désormais avec certitude pour Verstappen, le champion du monde sur sa Red Bull, Jean-Luc.
Ah oui, là, Christophe, il faudrait évidemment un problème mécanique pour que Verstappen ne triomphe pas dans ce premier Grand Prix de la saison. Lui, qui avait connu précisément un problème mécanique il y a un an, qui avait dû abandonner la victoire, était revenu à Charles Leclerc. Eh bien là, on peut dire que sa domination aura été totale. Dès les premiers tours, il s'est lancé.
Il n'a jamais gagné à Bahreïn, je crois.
Non, il n'a jamais gagné à Bahreïn, exactement. Il s'est lancé en tête et il a creusé l'écart inéluctablement sur Charles Leclerc qui avait réussi son départ derrière. Mais le pilote Ferrari n'a jamais pu effectivement inquiéter Verstappen qui a conservé un écart. Alors, on avait opté du côté de Red Bull pour une stratégie différente puisqu'on a remis un train de pneus tendre à l'issue du premier et ma foi c'était évidemment la bonne puisque ça a permis aussi à Pérez, évidemment favorisé lui aussi par l'abandon de Charles Leclerc, mais Pérez est un solide deuxième, il est à 11 secondes de son leader Verstappen, mais on peut dire que l'addition n'est pas trop salée pour le pilote mexicain. Et derrière, eh bien là on a une très belle confirmation, c'est le fait que non seulement Fernando Alonso a conservé tout son talent à 41 ans après deux titres de champion du monde, mais il est en route vers son 99e podium de sa carrière. Donc le dernier, eh bien, c'était au Qatar en 2021 pour Alpine. Donc un très très beau résultat puisqu'il est parvenu à prendre l'avantage sur Carlos Sainz. Alors le suspense, il est derrière. Hamilton est 5e, Stroll est 6e, mais Russell 7e. Mais voilà, Pierre Gasly, parti dernier, n'est plus qu'à 2 secondes, une exactement, de Valtteri Bottas pour le gain de la 8e place. C'est jouable. Hein. Il reste 2 tours, mais c'est jouable.
Ça va être compliqué quand même, Denis, d'aller chercher Bottas, 2 secondes, 2 tours.
Bon. Oui, c'est compliqué, sachant que Bottas, c'est pas n'importe qui. On double pas Bottas en faisant une formalité. Donc c'est compliqué. Je pense que parmi ceux qu'on peut regarder aussi, c'est Williams, 10e, 12e.
Oui.
C'est parmi.
Il y a du mieux.
Et donc je crois que c'est les As décevantes, clairement.
Et alors les McLaren,
Ah là, on n'en parle pas pudiquement.
Qu'est-ce qui se passe chez McLaren?
Là, c'est un désastre. On avait vu lors des essais hivernaux, les fameux 3 jours qu'ils n'étaient pas dans le coup. Confirmation lors des essais libres également, où ils évoluaient très très loin des temps. Parce que là, on peut dire que c'est pas le talent des pilotes. Hein. Lando Norris, 17e, alors que lui...
Considéré comme une des petites pépites de la Formule 1, il y a encore deux saisons. Hein.
Bien sûr, Oscar Piastri, l'Australien qui l'a rejoint, lui aussi. Donc là, il n'y a rien à faire. La monoplace est mal née, et encore plus mal née que celle de la saison dernière, qui déjà ne leur avait pas permis de se maintenir au 4e rang au championnat constructeur.
Ok, on va vivre le dernier tour avec vous dans un instant. Nouveau détour par Lyon avec une occasion pour les Merlus, Edouard et Jérémy et coach.
0 à 0, mais sur un corner, il y a eu deux actions avec deux tentatives de Kathleen et puis de Diarra, Jérémy. Hein.
Oui, avec ça se rapproche hein, quand même côté Lorientais. Il y a eu cette frappe contrée qui a donné le corner, la tentative ensuite de Johan Kathleen, celle de Stéphane Diarra, peut-être la plus dangereuse là-bas sur son côté droit, repiqué directement la prise de balle sur son pied gauche. On va suivre ce centre de Nicolas Tagliafico et ce sera dans les gants finalement de Vito Manone, mais les occasions pour les Merlus. Après, on a suivi également juste avant ce rush de Ryan Cherki, cette talonnade au milieu du terrain pour créer un décalage, un 1-2 avec Maxence Cacré, mais finalement sur sa frappe, sa tentative de frappe de centre, c'est Vito Manone qui s'est saisi à nouveau de ce ballon. Ça s'anime un petit peu, mais les Lyonnais un petit peu friables, coach, la 31e et toujours pas de but, 0 à 0 dans cette
partie. Ouais, quand même 2-3 situations dangereuses pour Lorient, mais vraiment vraiment dangereuses hein. Quand on parle d'occasion, je ne sais pas quelle note il faut mettre. C'est difficile d'avoir des ballons, notamment Dieng qui malheureusement est maladroit sur ce coup. Cette action-là était plus que dangereuse. C'était petit miracle qu'il n'y a pas eu ouverture.
C'est plus direct hein, pour les Lorientais du côté de Lyon. On arrive à faire des belles petites combinaisons, mais au milieu de terrain, il y a ce petit gris-gris, on va dire, de la part de Ryan Cherki, mais qui finalement n'a pas été décisif, ou en tout cas important pour Maxence Cacré derrière. 0-0 donc, toujours. On a dépassé la demi-heure.
Et on revient vous voir dans un instant. Le dernier tour, cette fois-ci, on est entré dans le dernier tour. Jean-Luc, Denis, avec la victoire de Verstappen. Le doublé Red Bull, le premier de la saison, sans doute pas le dernier.
Ah oui, absolument. Écrasant pour l'écurie autrichienne, donc implantée en Grande-Bretagne, naturellement, avec une victoire de Verstappen. Alors ce sera la 36e de sa carrière de pilote de Formule 1 et il faut rappeler qu'il ne sera plus qu'à 5 longueurs du fantastique Ayrton Senna Ayrton Senna, triple champion du monde de Formule 1. Et là, bah, évidemment,
il ouais, enfin, y a le double, le triple de Grand Prix par rapport à
bien
l'époque
sûr,
de Senna.
Bien sûr, bien sûr.
Mais enfin, raison de précision.
Oui. Non, non, mais il faut toujours le rappeler. Mais enfin,
c'est oui, mais ça, bien sûr, oui, bien sûr.
C'est comme ça, le nombre de champion. Victoires, bien sûr. Donc Verstappen qui se dirige maintenant quelques centaines de mètres à parcourir aux commandes de cette Red Bull que lui-même, dès le premier tour de roue, hein, dès les premiers essais officiels de Bahreïn, à Bahreïn la semaine dernière, disait elle est meilleure que celle de l'an dernier. Et bah, la confirmation est là. Et Pérez fait un fantastique deuxième également. Sergio Pérez qui ne démérite pas parce que ouais, terminé avec la même auto à 11 secondes de Verstappen, double champion du monde en titre. Et puis, je le répète, après, c'est la confirmation, on va dire, c'est Alonso. Et ça nous promet une belle bataille, en tout cas, pour
oui, pour la troisième place, quoi.
Et pourquoi pas pour la deuxième, parce que vu la déroute des Ferrari avec la.
Ah oui, pour la deuxième au niveau des constructeurs.
Et oui, au niveau des constructeurs. Là, on ne sait jamais, hein, pour le moment. Je ne sais pas ce que Denis en pense, mais la démonstration avec Stroll 6e et blessé et diminué, et donc Alonso 3e, bah, ils sont au moins au niveau des Mercedes, on va le dire.
Oui, clairement, là, c'est une longue saison. On le dit tous, c'est une très longue saison et ça va être après le potentiel de chacune de ces écuries de faire progresser cette voiture.
Et voilà la victoire magnifique de Max Verstappen, le champion du monde en titre qui démarre au mieux la saison 2023. 36e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1 et le doublé pour Red Bull avec la deuxième place de Sergio Pérez. Maintenant, on attend Fernando Alonso, le taureau des Asturies qui a fait un pari audacieux en quittant Alpine en fin de saison et en se dirigeant vers Aston Martin. Et évidemment,
Il fait le show, Nando, en faisant des grands virages sur la piste là, magnifique. Ah ouais, c'est un vrai showman en plus, Fernando Alonso, on le rappelle, double champion du monde et qui court après un troisième titre depuis des années maintenant, en tout cas à 41 ans. Il prouve qu'il a toujours la hargne, la rage et l'envie de vaincre. À part mettre des clous sous les pneus des Red Bull.
Comme le rappelait Denis, bon, c'est un circuit certes qui est représentatif, hein, mais on va quand même attendre, allez, 3-4 Grands Prix. Ouais. Un, pour voir si ce qui s'est passé du côté du moteur ou d'autres choses de Charles Leclerc, quel est le problème de fiabilité. Deux, si effectivement sur des circuits différents avec un revêtement moins abrasif, etc., on peut tirer son épingle du jeu. Et.
Non.
Ah bon, je croyais que vous voulez poser une question. Et puis, bon, c'est trop tôt pour en tirer les conclusions, mais évidemment, bon, Red Bull tient la dragée haute à tout le monde. Et oui.
Tu me permets de ne pas manger mon chapeau ce soir ?
Ah, je te permets c'est même l'inverse. Je vais peut-être manger le mien, tu vois. Je vais manger mon casque.
Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute des grandes gueules du sport ce matin, nous avons eu un débat. Animé. Est-ce qu'on peut s'attendre à une saison barbante ou excitante ? J'étais dans le camp des barbants et toi dans le camp des excitants. Bon.
Je m'excite pour Alonso.
Mais c'est bien. Tu as raison.
Et pour Pierre Gasly qui est 9e,
Bien. Merci les garçons, vous avez été parfaits comme d'habitude. Hein.
Merci.
Hein, vous êtes pas mal quand même. Une jeune équipe là, je veux dire, pleine d'avenir quand même. Denis Chevrier et Jean-Luc Roy qui nous ont commenté ce premier Grand Prix de la saison et qu'on retrouvera évidemment très rapidement. Le prochain Grand Prix, c'est quand ?
Eh bien, c'est dans 2 semaines.
Ah, il y a 2 semaines.
Vous dites, oui, absolument. Ah, il y a 2 semaines là.
S'ennuyer la semaine prochaine.
Oui,
on te retrouve tout à l'heure, on viendra faire un petit débrief quand même. Hein, ouais, et les raisons d'espérer ou de désespérer, tu vas essayer d'en trouver quelques-unes. Merci, messieurs. 17h40, le foot, la Ligue 1. Est-ce qu'on espère ou on se désespère à Lyon entre l'OL et Lorient, messieurs ?
Alors, si on regarde le tableau d'affichage, on se désespère parce qu'il n'y a pas de but, 0-0. Si on regarde nos petites fiches, il n'y a
ça
pas grand-chose.
Petit à petit.
Voilà, mais si on est, il y a peut-être des raisons d'espérer si on a plus le cœur breton, parce que clairement pour le moment les Lorientais baladent les Lyonnais dans les petits espaces avec le numéro 80 Enzo Lefebvre qui est magnifique dans cet exercice, et là les Lyonnais ont beaucoup de mal, notamment à relancer, à l'image de Rémy Rioux qui redonne à Stéphane Diarra.
Ouais, ce ballon récupéré très haut par les Lorientais, on repasse derrière notamment par le capitaine Laurent Bergel qui élimine en 2 touches un double contact pour éliminer Maxence Cacré hyper fort au milieu du terrain. Bamba Dieng qui récupère ce ballon, la frappe, elle est captée, c'est le premier tir cadré par les Lorientais, c'est le 5e de cette partie, le premier arrêt de Rémy Rioux, mais ça se précise sur les buts lyonnais avec des difficultés pour ressortir les ballons proprement, pour construire des actions et pour se montrer dangereux évidemment sur les buts de Vito Manone.
Ouais, et pour mettre du rythme aussi à l'image de cette relance là entre Le Penant, Corentin Tolisso, eh ben on est carrément arrêté. 37 minutes de jeu, 0-0 entre Lyon et Lorient.
Roland, Roland, qu'est-ce qui se passe dans ce match? Ça va? Tu es pour l'instant passionné ou non?
Je suis déjà en train de réfléchir qui pourrait rentrer pour secouer un petit peu cette...
Secouer le cocotier, oui.
Ouais, du côté de Lyon, avec la présence athlétique de Dembélé et quelques centres et le jeu de tête de Dembélé, ça sera peut-être une des solutions.
Nous verrons s'il y a des solutions. Y a-t-il des solutions à Anfield entre les Reds et les Red Devils? Liverpool, Manchester United, c'est avec Johan Bredov.
C'est parti depuis 12 minutes à Anfield entre Liverpool et Manchester United. 0-0, la plus belle occasion pour Manchester avec la frappe enroulée pied gauche d'Anthony et la belle parade d'Alisson. Le corner derrière qui n'a rien donné. Donc pas de but après 12 minutes de jeu entre Liverpool et Manchester United.
Il est 17h42 sur RMC. Verstappen, vainqueur de son premier Grand Prix de la saison. Max Verstappen devant son coéquipier Perez. Il est 17h42. Dans un instant, on revient pour la suite de nos matchs de foot. On va essayer également revenir tout à l'heure sur la première étape de Paris-Nice remportée par le champion de Belgique, Tim Merlier. Vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport que vous écoutez.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
17h45, vous êtes sur RMC, on est bien tous ensemble avec Coach Courbis, avec nos envoyés spéciaux sur les divers terrains, avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier qui vont nous quitter après nous avoir narré les aventures de Max Verstappen, vainqueur donc de son premier Grand Prix cette saison, pas le premier et pas le dernier en tout cas de sa carrière. Le foot avec deux matchs qui se déroulent actuellement, le premier concerne la Ligue 1, il oppose depuis 40 minutes maintenant l'Olympique Lyonnais au FC Lorient, ça se passe à Lyon évidemment. Edouard Gédé et Jérémy Donzé sont sur place, messieurs.
Oui, pour l'instant, ils ne voient pas grand-chose. Déjà, ils ne voient pas de but. 0-0. Pas beaucoup d'éclaircies, pas beaucoup d'accélération, notamment du côté de Lyon. Même si Maxence Cacré, dans quelques arabesques, peut-être va-t-il réussir à centrer. Oui, il a centré, mais ça a été contré. Le deuxième ballon va revenir dans les pieds de Ryan Cherki à l'entrée de la surface de réparation. Une talonnade avec Maxence Cacré. Le petit centre, la tête de Amin Sarr sur le coup de Bradley Barcola. Et finalement, c'est le gardien Manone qui a récupéré ce ballon. Action un petit peu confuse. Mais enfin, peut-être qu'il y avait du rythme dans cette partie.
Oui, avec cette talonnade de Ryan Cherki, la déviation de Bradley Barcola pour remiser sur Maxence Cacré qui revenait de sa position de centre, le centre du pied gauche, c'est Ryan Cherki de la tête, mais c'est trop axial évidemment pour tromper la vigilance de Vito Manone, mais enfin une petite éclaircie dans le ciel lyonnais à Vercura. Ouais, une faute signifiée par l'arbitre de la rencontre, une faute sur Montassart Albi, le défenseur central lorienté, faute de Maxence Cacré, un petit peu moins de 4 minutes à jouer dans cette première période et toujours ce score de 0-0.
Merci messieurs. Tiens, une info qui nous vient d'Istanbul où se déroulent les championnats d'Europe d'athlétisme en salle avec le premier titre pour un athlète français, en l'occurrence Kevin Mayer, qui vient de remporter l'or à l'heptathlon. On sait qu'il s'alignera au jeu au décathlon. L'heptathlon, il y a moins d'épreuves, mais il est toujours là. Kevin Mayer, notre meilleure chance française de briller en 2024 à Paris. Le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United. On ne peut pas mettre les deux équipes en rouge, c'est bien dommage.
Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé ça, comme ça je me serais trompé sur tous les joueurs. Liverpool, Manchester United, 17 minutes de jeu, 0-0. Le ballon plutôt dans les pieds de Liverpool, mais je le disais, la plus grosse occasion, elle est pour Manchester United qui fait très mal. Donc, avec des attaques rapides, et c'est Anthony sur son côté droit qui est venu repiquer dans l'axe. Frappe enroulée pied gauche, bien arrêté par Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Donc, pas de but pour l'instant après 18 minutes entre Liverpool et Manchester United dans ce derby d'Angleterre.
Ton regard est attiré par quel match, Roland? Tu regardes plus
Non, un peu plus Lyon quand même, parce que j'essaie de voir s'il y a des progrès qu'on peut constater par rapport, on les a eu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière même. Et là, pour le moment, j'en vois pas beaucoup.
Ouais. Et il y aura d'ailleurs un beau coup franc pour Lorient. Hein.
Allons-y alors.
Coach,
tu veux
parler, je pense, du match de samedi dernier du côté d'Angers, qui était d'une pauvreté affligeante en première période. Je crois que j'avais jamais vu une première période aussi affligeante, et Dieu sait si en ce moment on en a. et là, c'est un petit peu du même acabit, même toujours 0-0, il reste 2 minutes. Un coup franc pour Enzo Lefebvre.
Enzo Lefebvre, un mur à 3 pour.
Magnifique coup franc au match aller.
Exactement, cette victoire 3 buts 1 au booster pour les hommes de Régis Lebris. Enzo Lefebvre à 2 minutes de la mi-temps. Enzo Lefebvre, ça passera à gauche. Début de Rémi Rioux n'est pas cadré. Une frappe peut-être un petit peu à la Juninho, toute proportion gardée évidemment, mais ce n'est pas cadré et ça ne viendra pas inquiéter Rémi Rioux. On en reste à ce score de 0-0 à 1 minute 30 de la pause.
C'est vrai que le geste technique de cette frappe, c'est quand même une copie sur le geste que faisait Juninho, mais pour le moment il y a encore quelques progrès à faire.
Ouais, mais le match aller, il avait mis un super but, Juninhas, que vous savez pourquoi il a le 80 dans le dos au niveau de son numéro.
C'est pas son âge.
C'est pas son âge, c'est ni son année de naissance, parce que ça voudrait dire qu'il est assez âgé. Non, c'est l'année de naissance de son papa qui est décédé. Voilà. Non, de son papa qui est en
c'est
hommage.
C'est quoi le 80 d'ailleurs, comme département?
Alors là, bonne question.
La Somme, bravo Johan, ah, il est fort, ouais. tu vas gagner une tringle à rideau, magnifique.
Allez, toujours 0-0, on va peut-être suivre ce déboulé là avec Maxence Cacré. Que va-t-il obtenir, ce qu'il pouvait obtenir de mieux? Ah ben non, je pensais qu'il allait avoir un corner, ben non, ça sera un 6 mètres. Et donc on va rentrer dans les 30 dernières secondes de cette première mi-temps insipide au possible. Et quand on dit une mi-temps insipide, ben on a 0-0, a priori on va se quitter sur cette marque là, il va y avoir une petite poignée de secondes en plus. 0-0 donc, le déglage de Manon et dans quelques secondes de cela.
En tout cas, les spectateurs sont quand même présents, hein, alors que Lyon en championnat fait quand même pas une saison des plus brillantes. Hein. Au moins, les spectateurs restent fidèles. Il y a combien de
nous annonçait 40 000 billets vendus. Voilà.
Pas mal.
Donc, ouais, ça doit être bien, 35 000, 36 000 personnes.
Bon, ils supportent encore leur équipe, sachant qu'il y a le championnat, ok, mais le championnat. Si on regarde logiquement les choses, ça permet de bien préparer l'équipe pour justement la Coupe de France. Ouais, avec maintenant une bonne nouvelle du côté de Lyon, c'est l'élimination de Marseille.
Et parce que s'il y a deux matchs à gagner d'ici la fin de l'année, c'est la demi-finale à Nantes le 5 avril prochain. Et s'il y a victoire là, la finale, tout le reste, et parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a un billet pour la Coupe d'Europe.
Et oui, parce que c'est peut-être pas
prochaine.
Avec le championnat qu'ils vont se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ils sont mal barrés.
Non, puis la Coupe de France, ce sera en plus un billet pour la Ligue Europa. Et ce qui peut obtenir de mieux via le championnat, ce serait éventuellement une cinquième place via la Ligue Europa Conférence cette fois-ci. Donc il y a beaucoup à espérer.
Qu'est-ce que t'as contre la France, Ligue Europa Conférence, toi,
Jérémy? Non, pas du tout,
parce qu'il y a Nice qui est encore.
Simplement, il y a une hiérarchie dans les Coupes d'Europe. Et puis, il y a 11 ans sans titre également. Un manque à combler, évidemment, dans les vitrines du club.
Allez, il ne reste qu'une poignée de secondes, parce qu'il y avait une minute de temps additionnel. Ryan Cherki, qui à grandes enjambées, va remonter tout le terrain. Il va peut-être servir. Voilà qui est fait Corentin Tolisso, qui se manque dans sa conduite de balle et il perd le ballon à hauteur des 20 mètres. Corentin Tolisso qui joue et qui a le brassard de capitaine. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé pour cette première mi-temps avec des sifflets, parce que le spectacle vaut les sifflets cet après-midi. Première mi-temps insipide, 0-0.
C'est dommage quand même, ce que rate Tolisso, c'est un petit détail mais qui fait une énorme différence. Ce joueur-là, avec l'expérience qu'il a, là, c'est vraiment... C'est comme ça.
C'est comme ça. 0-0 donc à la pause entre Lyon et Lorient. Je vous rappellerai dans quelques instants les résultats de l'après-midi. On fait également un détour par l'Angleterre, Liverpool, Manchester United. Johan.
0-0 après 22 minutes de jeu entre Liverpool et Manchester United. Attention, l'attaque de Liverpool avec Alexander Arnold qui se retrouve dans une position inhabituelle, qui trouve Robertson, la frappe du droit enroulée et c'est sauvé par la défense mancunienne. Il me semblait qu'elle n'était pas cadrée quand même, cette frappe de Robertson, de son mauvais pied, du pied droit. Mais voilà, Liverpool qui commence à pousser. On s'endormait un petit peu là dans ce derby d'Angleterre. 22 minutes, 0-0 entre Liverpool et Manchester United.
17h52, on va parier sur la deuxième période de Lyon-Lorient. C'est tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Cette fois-ci, il est venu avec son jingle, Johan. Exactement. T'avais laissé au vestiaire tout à l'heure. Johan, donc pour cette deuxième mi-temps, est-ce que déjà tu vois un but dans ce match?
Oui, je vois un but. Effectivement, je vois un but.
C'est la méthode couée, hein.
Sèche, hein, dans un premier temps. 1,84, la victoire de l'Olympique Lyonnais. 2,55, le match nul. 4,10, le succès l'orienté. Et justement, je vois. Pardon, excusez-moi.
Ah ben le chat.
Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai un chat dans la gorge.
T'inquiète ta gorge.
Je vois Lyon tomber dans le piège l'orienté. Ça vient de monter à 4,20. Donc je suis bien tenté de vous proposer la victoire de Lorient à 4,20. Et la cote qui me plaît bien, justement, c'est le 1-0 pour les Merlus, qui est à 6,75.
Ah ouais.
C'est peut-être pour ça que ma voix s'est enrouée.
Oui, tu t'es dit là, je pourrais devenir riche, Roland.
Ah ben je m'amuse avec le 1 partout.
Le 1 partout qui est coté à 6.
Voilà.
C'est pas mal ça.
Ça se tente.
Merci les garçons.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Je vous rappelle les résultats de l'après-midi en Ligue 1, puisque plusieurs matchs se sont déroulés, avec le match nul entre Troyes et Monaco. Deux partout, hein, Monaco qui laisse échapper quelques points précieux. Victoire, et quelle victoire de Montpellier qui s'impose 5-0 face à Angers. Victoire précieuse acquise dans les derniers instants pour Reims qui s'impose 1-0 face à Ajaccio. Victoire à l'extérieur pour Brest sur la pelouse de la Méno. Et donc Clermont qui est allé s'imposer à Toulouse. Là aussi 1-0. Quelques surprises. Je vous rappelle qu'il restera un dernier match à disputer ce soir à 20h45 entre Rennes et Marseille. On en parlera tout à l'heure de cette rencontre, comme on va revenir dans un instant sur la première étape de Paris-Nice qui a vu la victoire d'un Belge tout à l'heure, Tim Merlier. On a assisté au premier duel, celui très attendu entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Pogacar et Vingegaard, qui se sont mis une petite peignée. On y revient dans un instant avec Arnaud Souk.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
17h57, on va partir dans un instant dans les Yvelines, retrouver Arnaud Souk pour faire le bilan de la première étape de Paris-Nice qui se déroulait cet après-midi. Un point tout d'abord sur le derby d'Angleterre avec Johan Bredov entre Liverpool et Manchester United. Johan.
Et ça s'emballe un petit peu, toujours pas de but entre Liverpool et Manchester United à la 28e minute de jeu, mais des grosses occasions d'abord par Darwin Núñez, hein, bien servi par Andrew Robertson, et le sauvetage magnifique de Lisandro Martinez qui passe juste devant l'attaquant de Liverpool. 3 minutes plus tard, c'est Bruno Fernandes d'une tête plongeante croisée qui voit le ballon passer à ras du poteau gauche d'Alisson. Et ensuite, juste après, Rashford, là, qui avait une grosse occasion sur un beau centre de Luke Shaw, qui aurait pu marquer son plat du pied pas assez puissant pour tromper le gardien brésilien de Liverpool. Donc, toujours pas de but. 0-0 entre Liverpool et Manchester United, mais ça s'emballe à la 28e minute de jeu.
Le cyclisme dans l'intégral sport avec la saison des premières grandes épreuves. On a assisté hier à une magnifique édition des Strade Bianche en Italie. Et aujourd'hui, débuté Paris-Nice, la course au soleil qui est la première grande épreuve par étape disputée sur le territoire français. On part de la région parisienne pour se diriger vers la Côte d'Azur. Et pour l'instant, nous sommes donc à La Verrière, dans les Yvelines, avec Arnaud Souk, qui a sa petite valise dans la voiture, qui s'apprête donc à descendre vers la Côte d'Azur, tranquille. Il a le maillot de bain déjà dans la valise. Pour l'instant, pas de maillot de bain. Hein.
On dort à la maison quand même ce soir. Hein. Quand même, ça repart des Yvelines et ça arrive à Fontainebleau, donc il n'y avait pas de raison non plus de prendre un hôtel à 15 km de la maison.
Faire des économies, t'as bien raison, par les temps qui courent.
Je suis déçu que t'aies pas sorti ta petite sonnette de vélo, mon Christophe.
Ah bah écoute, voilà. c'est pas moi qui l'ai, moi je l'ai pas sur moi, tu sais. C'est Julie qui l'a dans sa régie, elle va peut-être te la sortir tout à l'heure. Elle a bien envoyé la flamme rouge tout à l'heure. Magnifique, hein, oui. On s'entraîne déjà pour le Tour de France. Arnaud, première étape et première bataille. Hein, on sait que ce Paris-Nice a un plateau de rêve, avec notamment les deux derniers vainqueurs du Tour de France. Ils se sont mis une petite peignée tout à l'heure. On va rappeler quand même la victoire de Tim Merlier, le champion de Belgique, qui s'est imposé au sprint. Mais auparavant, donc, on a assisté à cette première bagarre. Et une première bagarre qui permet d'ailleurs à Pogacar d'empocher quelques petites secondes de bonification. Et on sait que sur Paris-Nice, la moindre seconde est bonne à prendre, hein.
Effectivement, oui, la moindre seconde est bonne à prendre. Souvent, ça se joue, alors pas à la seconde près, mais à quelques dizaines de secondes près. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant. Là, il en a pris 4 en l'occurrence, des secondes d'avance, Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard. Alors, tu parles d'une peignée, ils se sont même mis 2 peignées. Il y a d'abord eu cette première peignée qui était plutôt à l'initiative pour le coup de Tadej Pogacar dans le deuxième franchissement de la côte de Millon, La Chapelle, à 20 km de l'arrivée, qui a d'ailleurs permis à un groupe de se détacher, un groupe d'une vingtaine, trentaine d'unités dans lequel on comptait pas mal de favoris du classement général, un petit peu moins de sprinteurs, mais Arnaud Démare d'ailleurs qui était là, il a moins réussi son sprint après, mais il était en tout cas avec les gros bras du classement général à ce moment-là. Et puis donc, il y a eu cette deuxième peignée entre les favoris du général au moment de la cote des 17 tournants qui n'était pas répertoriée en tant que difficulté qui comptait pour le classement des grimpeurs, mais c'était un sprint tournant, intermédiaire beaucoup, hein. À l'issue, ça fait pas mal, mais je peux te dire que je la monte pas à la même vitesse que en tout cas, il y avait des bonifications à prendre tout en haut de cette cote, des bonifications. Eh bien, Tadej Pogacar a pris 6 secondes de bonification contre 2 seulement pour Jonas Vingegaard. Et voilà comment, l'air de rien, finalement, Tadej Pogacar, le Slovène, s'empare de 4 secondes d'avance sur son principal concurrent au classement général. On peut peut-être d'ailleurs écouter Tadej Pogacar qui était plutôt satisfait de sa course. Il a livré une journée où il a dit comme il l'a dit, c'était fun. Voilà, ça lui a plu. Tadej Pogacar en forme.
Je suis plutôt satisfait de ma course. Au début, je n'étais pas très confiant, mais à mesure des accélérations, je sentais que je pouvais revenir. Ensuite, c'était mieux. Il faut que je continue comme ça dans les prochains jours.
Incroyable, Tadej Pogacar qui a toujours envie de se bagarrer sur le vélo. Et,
bah, ils sont rigolos les deux.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est
Christophe.
C'est sympa, si parce qu'on on rappelle qu'ils sont en pleine forme tous les deux, puisqu'ils ont remporté quasiment toutes les courses auxquelles ils ont participé jusqu'à présent. Hein.
Je dis rigolo. Oui, effectivement, 5 pour Tadej Pogacar, 4 victoires depuis le début de la saison pour Jonas Vingegaard. Je dis rigolo, peut-être pas pour la concurrence, mais quand ils ont réussi à se détacher tous les deux avec Pierre Latour, donc à l'issue de ce deuxième, enfin de ce sprint intermédiaire, pardon, en haut de la côte des 17 tournants, ils ont quand même un petit peu continuer à appuyer sur les pédales en haut de la côte pour voir, on sait jamais, des fois qu'on puisse se disputer la victoire d'étape entre nous deux sur une étape qui était réservée aux sprinteurs. Bon, ils ont rapidement vu avec un vent qui était relativement défavorable que ça serait pas possible, mais du coup, on les a vus discuter très brièvement, on l'a vu d'ailleurs à l'image à la télé. Bon, ben ouais, ben c'était dommage que ça soit pas passé. Voilà ce que se sont dit Vingegaard et Pogacar. On aura tenté, mais c'est pas passé. Ça sera pour plus tard. En tout cas, les deux champions, on le sent, se respectent énormément et ça fait plaisir à voir.
Ouais, ça fait plaisir à voir. Et puis ça permet aussi aux courses d'être animées quand t'as deux garçons comme ça c'est fun.
C'est
le vélo.
Pogacar qui le dit.
Le vélo comme ça, ça se résume pas à une bataille entre équipes de sprinteurs à 10 km de l'arrivée. Voilà, il y a de la course quasiment tout le temps dans les 50 derniers kilomètres.
Et pourtant, Dieu sait que les sprinteurs étaient présents. Hein. Tous ceux qu'on a pu citer à l'antenne en début d'après-midi, bah, c'est simple, sur les 10 premiers, il y en a 9 que je vous avais cités en début d'après-midi. Merlier, Bennett, Pedersen, Arnaud Delis, Michael Matthews, Brian Cocard, Ivan Garcia Cortina, Arnaud Demar. Bref, ils étaient tous là, les sprinteurs. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré le fait que les équipes de sprinter soit là pour remporter des étapes, et eh bien ça n'empêche pas ses favoris du général d'essayer de tout faire exploser. Donc ça, c'est assez génial.
Victoire donc de Merlier devant Bennett et Pedersen. Les Français sont un peu plus loin. 7e Brian Cocard et 10e Arnaud Demar. On espère évidemment qu'ils auront l'occasion de s'illustrer de meilleure manière dans les jours qui viennent. Alors justement, à quoi va ressembler ce Paris-Nice demain, direction, tu le disais, la Seine-et-Marne. On pique vers le sud là, ça y est. Hein.
Ouais, on pique vers le sud très rapidement pour vous dire que demain, ça sera évidemment largement à surveiller. Traditionnellement, la deuxième étape se fait à découvert avec des vents qui favorisent les bordures, donc on pourrait pourquoi pas en allant vers Fontainebleau, d'autant que la route vraiment va tourner dans tous les sens, et bien avoir des bordures. Et puis après, on aura ce fameux contre-la-montre par équipe, le premier depuis 30 ans sur Paris-Nice, mardi, et une première arrivée en montagne à la Loge des Gardes dans l'Allier, ça sera à partir de mercredi, et puis le week-end final dans les Alpes-Maritimes avec le col de la Couillole ou encore le col d'Aize. Mmh. On va se régaler, Christophe.
Bon voyage, mon petit Arnaud, régale-toi.
Merci.
Hein, et va goûter la Côte d'Azur.
Je ramènerai des souvenirs.
Ouais, ramène-moi un petit peu de pissaladière et de soca et tout ira bien. On restera copains. Merci Arnaud. À demain donc pour la deuxième étape de Paris-Nice, la course au soleil et cette bagarre entre Pogacar et Vingegaard. 18h04 sur RMC, monsieur Bredov. Faudrait peut-être que ça marque entre Liverpool et Manchester United, là, non?
Ouais, 0-0. Après,
ouais, à Lyon, dis donc.
3-4 minutes de jouer à toute proportion gardée, quand même. Liverpool-Manchester United. Ouais, il y a eu des grosses occasions, je vous en parlais. Ça s'est un petit peu calmé. Hein. Entre la 20e et la 25e minute, ça a été très chaud, que ce soit pour Liverpool ou pour Manchester United. On a 7 tirs à 4 en faveur de Liverpool, mais toujours pas de but. 0-0 entre Liverpool et Manchester United.
18h04, dans un instant, la deuxième mi-temps de Lyon-Lorient. On suivra également la suite de ce Liverpool-Manchester United, et on va revenir aussi sur le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, remporté demain de maître par un certain Max Verstappen, un petit jeune qui monte, qui n'en finit plus de monter. Va-t-il un jour être rattrapé? Jean-Luc Roy a mangé son chapeau, il va nous raconter ça dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
18h07, ça continue sur RMC, l'Intégral Sport, avec la suite de ce match entre Lyon et Lorient. On ne s'est pas vraiment régalé pendant les 45 premières minutes. Espérons, messieurs G et Donzé, que ça va être un peu plus entraînant dans cette deuxième mi-temps qui vient de débuter, messieurs.
Oui, espérons.
Il n'y a pas de changement, hein, pas de changement dans le score, 0-0, pas de changement dans les joueurs. Et la formule d'un confrère à la mi-temps qui résume ce match, j'espère pour les supporters qui sont là, qui ne vont pas leur faire payer au final la place, tellement le spectacle, je trouve la formule.
peut-être les rembourser à la fin du match.
Peut-être, mais en tout cas,
j'espère qu'ils les ont.
J'espère qu'ils ne l'ont pas fait payer cette rencontre.
On a surtout une équipe lyonnaise décevante, hein, malgré tout. Une équipe lorientaise qui reste entreprenante. Ça a été la plus dangereuse, en tout cas, sur la première période, avec 5 tentatives pour les hommes de Régis Lebris. Il y aura d'ailleurs un coup franc pour Enzo Le fait le petit par-dessus dans la surface de réparation, la déviation de la tête de Talbi. Et on. Oh là, c'est la charnière centrale. Là. Talbi et Meïté qui étaient montés. Meïté qui n'a pas réussi à contrôler, à redresser ce ballon. Ce sera un 6 mètres dégagement à suivre pour Rémi Rioux.
Alors, la question qu'on se pose, messieurs, c'est comment ça se fait que l'OL n'arrive pas à mettre du rythme dans cette partie, alors qu'en conférence de presse, Laurent Blanc insiste, mais c'est vraiment des mots qui reviennent, des éléments de langage qui reviennent. Conférence de presse après conférence de presse, il demande à ses joueurs de mettre du mouvement. La technique sans le mouvement, ce n'est rien. Alors là, on voit qu'il y a de la technique, mais alors il n'y a pas de mouvement à l'image des petits passements de jambes de Ryan Cherki. Alors certes, c'est beau, certes, parfois, ça arrive à décaler un collègue, mais le collègue attend tellement longtemps ce ballon que lui est arrêté, que finalement, ça ne fait pas la différence, au contraire des Lorientais qui ont, eux, un petit peu plus
de fluidité. Ça peut être dû à quoi, ce manque de rythme, conditions physiques, un peu de fatigue, comment on l'explique?
Sur la tête de Maxence Cacré, la parade de Vito Manone, de la main gauche, le centre de Bradley Barcola, la tête de Maxence Cacré qui reste au sol après ce choc, et la parade de Vito Manone, la première très grosse occasion de cette deuxième période. On fait rentrer les soigneurs puisque Maxence Cacré reste au sol, ce sera un corner à suivre pour les Lyonnais.
Il a heurté un adversaire, c'est ça?
Oui, il a l'air KO.
Il a l'air KO complet, par terre. Il ne bouge pas.
Protocole commotion, comme au rugby. Allez hop, il faut lui poser quelques questions pour savoir s'il peut reprendre son.
Choc avec Meïté, là. La grosse parade de Vito Badone.
Ouais, un gros coup là, peut-être dans les côtes. En tout cas, il est KO. Il voulait se relever et il a trébuché. Et il a même. Tombé sur son bras, est-ce que c'est l'épaule?
Peut-être qu'il s'est coupé le souffle en tombant sur son bras contre le poumon, peut-être, je sais pas. Non.
En tout cas, il y a un
complet déséquilibre.
On parle évidemment de savoir si Cacré n'est pas blessé gravement.
Petite Cacré.
Je ne pense pas, mais quel arrêt!
La parade main gauche, la main gauche ferme de Vito Manone sur ce centre venu de la droite de Bradley Barcola. Maxence Cacré qui de cette tête vient chercher le petit soupirail là sur la côté gauche de Vito Manone, le gardien italien qui se détend pour aller repousser ce ballon en corner. Il s'est relevé, Maxence Cacré, il se tient le flanc droit, il va sortir avec les soigneurs, mais on va pouvoir suivre le corner avec Ryan Cherki après 4 minutes dans cette deuxième période, toujours 0-0.
Les Lyonnais qui vont être à 10 sur cette action, mais pas trop de problèmes puisque Maxence Cacré va peut-être rentrer pour participer à ce corner. On prend un petit peu son temps. Allez, le corner de Ryan Cherki au premier poteau, le ballon qui est dévié par Diarra, ce ballon qui va revenir avec Sarr et puis le penant qui ouvre totalement côté droit pour Ryan Cherki.
Ryan Cherki, le contrôle un petit peu raté, le bon pressing d'Enzo Lefebvre pour repousser le mettre à jouer côté lyonnais, un passement de jambe, deux passements de jambe, mais on revient finalement derrière jusqu'au capitaine Corentin Tolisso. Mais au moins on voit un petit peu d'action et une première situation pour les Lyonnais avec Yohan Le Penant qui sonne la charge.
La percée de Yohan Le Penant alors que Maxence Cacré est rentré dans le match.
But en hors-jeu, pardon messieurs, Liverpool Manchester United,
j'ai cru la sieste, là.
Au but de Casemiro, il en fallait, il n'y a pas de but entre les deux matchs, je me suis dit peut-être là avec ce coup franc tiré par Bruno Fernandes, mais Casemiro qui voit son but refusé pour une position de hors-jeu légitime, pas de doute. 0-0 toujours à la 42e minute de jeu entre Liverpool et Manchester United.
Il a failli provoquer une crise cardiaque chez Roland et Jean-Luc qui roupillait tranquille là.
Le but dans l'arrêt, la pote, le poteau derrière, envoyé sur cette tête de Corentin Tolisso. Superbe arrêt de Manon. L'action n'est pas terminée avec Ryan Cherki qui fait finalement un petit gris-gris, mais finalement ça va être à 6 mètres. Mais quelle action et quel arrêt de Manon. Cette fois-ci, c'est sur le capitaine Corentin Tolisso.
Il est félicité par ses défenseurs, Vito Manon. Est à nouveau décisif, le centre côté gauche de Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso, deuxième poteau qui parvient à se défaire du marquage de Vincent Le Goff. La tête de Corentin Tolisso dans les mains de Vito Manone qui est très solide pour repousser ce ballon dès demain sur son poteau, sa barre, l'équerre en tout cas, pour repousser cette nouvelle tentative. En 5 minutes, on en a beaucoup plus vu côté lyonnais que sur les 45 premières évidemment, mais ça reste à 0-0.
Et cette fois, il est là, le but, mais pour Liverpool, 1-0 pour les Reds, il est magnifique. magnifique ce but, ce bien lancé par Robertson dans la surface de réparation. C'est Cody Gakpo qui vient fixer son adversaire direct, qui se met sur son pied droit et la frappe enroulée qui fait mouche. 1-0 donc pour les Reds à la 43e minute de jeu à Anfield face à Manchester United dans ce derby d'Angleterre.
Johan a décidé de réveiller, de laisser tout le monde en bien en forme cet après-midi. Ouverture du score donc pour les Reds sur cette magnifique frappe. 1-0 donc pour Liverpool face à Manchester. On est à 2 minutes de la mi-temps. Les Lyonnais qui ont bien failli marquer deux belles occasions quand Roland, et quasiment le même arrêt.
Alors oui, le même arrêt, mais je pense que Tolisso, même si peut-être le jeu de tête c'est pas sa principale qualité,
il doit bien le faire.
L'idée c'est de le mettre au premier poteau. Je préfère, moi, chacun sa vision des choses, qu'il rate le cadre, mais que le ballon passe au ras du premier poteau, que de le mettre comme ça, en plein centre du but, là où se trouve le gardien. C'est quelque chose, mais c'est pour moi une habitude et un principe. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que ça, normalement, pour moi, ça doit faire un but.
Bon, il y a pas eu. Et les Lorientais qui ont réagi dans la foulée avec cette frappe notamment de Johan Catlin qui est passé de peu à côté des buts de Rémi Rioux. Mais ça s'anime en tout cas en ce début de deuxième période. Corentin Tolisso, cette tête qui n'a pas été mise hors de portée, pour prolonger ce que disait coach, hors de portée de Vito Manone qui quand même a réalisé un nouveau gros arrêt après celui sur la tête de Maxence Caqueray juste auparavant.
Grosse occasion pour Manchester United pour revenir à un partout. L'attaquant des Red Devils a hésité un peu alors qu'il avait le chemin du but ouvert.
Exactement, c'était Woodvigorst, il me semble bien lancé. Woodvigorst qui va finir l'occasion. C'était Bruno Fernandes lancé en profondeur qui est signalé en position de hors-jeu. La passe de Lisandro Martinez qui était magnifique pourtant. Mais voilà, c'était de toute façon signalé hors-jeu. Toujours 1-0 pour Liverpool face à Manchester United à 20 secondes de la pause. C'est Cody Gakpo qui a marqué pour les Reds.
Je vous parlais tout à l'heure de la médaille d'or pour Kevin Mayer au championnat d'Europe d'athlétisme en salle qui se déroule à Istanbul. Sachez qu'il y a une deuxième médaille pour l'équipe de France. Elle est l'œuvre du relais 4x400 mètres messieurs qui ont donc pris la deuxième place. Ils sont vice-champions d'Europe à 39 centièmes du record de France. Voilà donc une belle dernière journée pour les athlètes français. 18h15, il est là évidemment, bien éveillé par Johan Bredov qui lui a crié dans l'oreille alors qu'il faisait une petite sieste bien méritée après avoir œuvré toute la journée. Jean-Luc Roy qui est là pour revenir sur ce premier prix de la saison. Comment ça va?
J'ai été en train de lire un petit peu toutes les déclarations, tu vois, post-course. Bah écoute, ça
va. Qu'est-ce qu'on dit?
Tu sais, j'ai quand même
réfléchi. Qu'est-ce qu'on dit chez Ferrari, par exemple?
Le
pauvre Charles Leclerc, les yeux pour pleurer.
Ouais, il est bien abattu parce que, d'une part, bon, évidemment, il n'a pas terminé ce Grand Prix où il aurait pu terminer, en tout cas sur le podium.
On rappelle la victoire de Verstappen devant Perez et Alonso qui termine troisième.
Magnifiquement. On va y revenir avec l'Aston. Mais du côté de Ferrari, on a bien vu au niveau performance que il n'y avait rien à faire, indubitablement Verstappen est parti. On avait une stratégie différente, on l'a rappelé à plusieurs reprises, avec un train de pneus neuf, mais ça n'a pas permis à Charles d'aller plus vite, plus loin dans le premier stint, comme on dit. Donc après, on s'est trouvé avec une stratégie inversée de la part de Red Bull qui a chaussé un deuxième train de pneumatique soft. Et puis ça y est, le trou était fait de toute manière. L'espoir de victoire, hormis sur un problème mécanique qui aurait pu frapper également Verstappen, puisque je rappelle que l'an dernier, c'est Charles Leclerc qui l'avait emporté. Ouais. Suite aussi à des problèmes de Verstappen. Donc ça peut arriver. Donc non, chez Ferrari, là, clairement, Carlos Sainz termine. Ce qui est important, c'est l'écart. À 48 secondes du vainqueur sur 57 tours, on a pris 9 dixièmes au tour pendant l'ensemble du Grand Prix. Il y a du boulot à faire.
Il y a un sacré boulot à faire pour Ferrari pour tenter de rattraper le retard concédé une nouvelle fois sur les Red Bull qui ont malgré une période limitée en termes de préparation et de développement aérodynamique montre qu'ils sont vraiment encore les meilleurs, la meilleure voiture, les meilleurs pilotes, une espèce de constance au sein de cette équipe. Ouais. On est parti pour une nouvelle domination. On se pose toujours des questions avant le départ de la saison, début de la saison, en se disant ouais, les autres vont
vont rattraper les tenants du titre. Là, force est de constater que dès le premier Grand Prix, l'écart est énorme.
C'était les favoris, au-delà du, du débat que nous avons eu ce matin. C'était les favoris, mais on pensait que l'écart s'était réduit. C'est exactement ça. Au vu de ce Grand Prix-là, pas vraiment. Non, on a l'impression que Verstappen domine. Il n'a même pas eu, à forcer son talent, même si, tu sais, c'est toujours pareil, les grands champions, ça paraît tellement facile, mais il est dans la meilleure voiture, c'est clair, dans la meilleure équipe, et donc il survole le débat pour le moment. Pour le moment.
Alors, la seule bonne nouvelle du jour, c'est la performance des Aston Martin, et notamment de Fernando Alonso. On rappelle qu'il a changé d'équipe à l'intersaison pour rejoindre l'écurie anglaise, et qui monte sur un podium pour son premier Grand Prix sous les couleurs vertes. Magnifique, Fernando.
C'est génial, écoute, il était cinquième sur la grille de départ, il était sur la troisième ligne, et la question était de savoir s'il pourrait prendre éventuellement l'avantage sur les Ferrari et sur les Mercedes, parce que rappelons qu'il était au milieu des Mercedes avec Russell et Hamilton. La réponse est oui. Donc ça veut dire que non seulement Fernando, ça on n'en doutait pas vraiment, n'a rien perdu de ses qualités de pilote, 2 à 41 ans quand même, on le rappelle, et après deux titres de champion du monde, mais c'était il y a tellement longtemps, 2005 et 2006, mais l'Aston, eh bien, on est reparti d'une feuille blanche chez Aston, c'est la seule écurie, il faut savoir, du plateau, où on est reparti d'une forme en disant la monoplace de l'an dernier n'était pas suffisamment bonne, était même carrément mauvaise, donc on retravaille avec un règlement assez fort, le résultat est là, les ambitions sont très
performance
élevées.
Et en plus, ils mettent les deux voitures à l'arrivée. En plus, la fiabilité est là dès le premier Grand Prix.
Complètement, puisque Lance Stroll est sixième. Or, Stroll, on le sait, avait été handicapé par cette chute de vélo. Il a des vis dans le poignet droit, etc. Il avait même la main gauche qui avait été abîmée. Il avait même un orteil cassé, tu vois, il l'a dit après. Donc, il a le pénalisé, si tu veux, quand même.
Pour appuyer. Un pilote de MotoGP, presque. Cassé de partout. Et il fait
sixième. C'est super, c'est un beau tir groupé.
Dernier mot, Jean-Luc, concernant les Alpines, avec le duo franco-français, Gasly, Ocon. Gasly s'était raté au qualif. En revanche, il fait un très beau Grand Prix et il rentre dans les points.
C'est vraiment les montagnes russes, c'est-à-dire quand l'un est heureux, l'autre est malheureux. Effectivement, en qualification, Esteban Ocon était, on va dire, à sa place, à la place qu'il méritait, c'est ce qu'il disait, 9e dans le top 10. Il y avait des gros points à prendre. Et puis en course, ça a été une catastrophe. Effectivement, il a même écopé d'une pénalité. Enfin, puis finalement, on a retiré sa voiture, il a abandonné. Alors que Pierre Gasly, parti 20e après son temps, qui ne lui aurait offert que la 17e place, c'était pas un drame, eh bien, remonte magnifiquement, très bonne stratégie, et il termine non seulement dans les points, mais sur les talons de Valtteri Bottas. C'est un bel exploit, en tout cas, pour Alpine, ça met un petit peu de bobo au cœur. Maintenant, il faut travailler, parce que du monde devant. Parce qu'effectivement, il y a Alfa Romeo devant, il y a. Alors, un petit mot, si tu veux bien, aussi de McLaren. Là, c'est la déroute totale. McLaren, alors là, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il termine Lando Norris dernier, quand même, dernier à rouler, et Piastri retiré. C'est une cata totale.
Bon, écoute, tiens, tu seras tout à l'heure dans Bartoli Time, c'est ça ?
Oui, absolument.
Je parie qu'il y aurait une question concernant Lewis Hamilton.
Oui, moi aussi.
Moi, je ne la pense pas. Je laisse à Marion le soin de le faire.
Il a fait un beau Grand Prix.
Pour un ancien champion, c'est
bon. Oui, il a bien tenu la rampe. Alors, pareil, ce qui
s'est fait doubler quand même par Nando. Ça doit lui faire mal.
Ça doit lui faire mal. Et puis, attends, il termine à 50 secondes. Non, il ne peut pas se contenter de ça.
Il va être énervé, Lewis Hamilton. 7 fois champion du monde, c'est difficile d'aller chercher.
On a eu une belle passe d'armes entre les deux.
Il s'est passé des choses. C'est bien. Maintenant, on va se bagarrer pour terminer deuxième chez les constructeurs et troisième au classement du championnat du monde. Je connais ton laïus, mais tu me la referas pas. Merci Jean-Luc, on te retrouve tout à l'heure chez Marion dans Bartoli Time à partir de 19h. 18h21, c'est la mi-temps à Liverpool, Johan.
Tout à fait.
Sur le score d'un but à zéro pour les Reds.
Exactement, Liverpool qui mène à 1-0, but juste avant la fin de cette première période. Gakpo à la 43e, magnifique. La prise de balle sur la passe en profondeur de Robertson, il est dans la surface de réparation. Il enrhume Raphaël Varane et il vient tromper donc le David De Gea sur son côté gauche. Magnifique but de Gakpo. 1-0 donc pour les Reds à la pause face à Manchester United.
Qu'en est-il de ce Lyon-Lorient, messieurs?
Il est assez vivant. 0-0. Attention, peut-être ouverture du score. Non, finalement, il va y avoir un hors-jeu lorientais. Une heure de jeu. Franchement, la deuxième mi-temps ne ressemble absolument pas à la première. On voit des actions. Il y en a eu beaucoup du côté de Lyon. Il y en a eu aussi récemment du côté de de Lorient. Ça bouge, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Ouais, tableau d'affichage.
Trois grosses occasions pour les Lyonnais depuis le retour des vestiaires. Deux parades de Vito Manone. Il y a aussi eu une frappe de Bradley Barcola, bien servie par Ryan Cherki, qui est passé au-dessus, début Lorienté. Et puis la réponse sur un corner lyonnais, le contre Lorienté. Ça s'est conclu par une frappe de Stéphane Diarra, frappe contrée finalement par le bon retour de Johan Le Penon. Le corner derrière n'a rien donné. Les Lyonnais à nouveau à l'attaque, beaucoup plus entreprenant en tout cas dans le premier quart d'heure de cette deuxième période. La 61e, toujours ce score de 0-0 entre Lyon et Lorient.
Tu vois, quand on parle et qu'on développe un petit peu le pourquoi tel joueur joue à droite plutôt qu'à gauche, et là tu as la démonstration sur l'action de Barcola, qu'il est mieux à gauche pour rentrer sur son pied droit qu'à droite pour rentrer sur son pied gauche. Et quand il rentre sur son pied gauche, ben, il y a une certaine maladresse, parce que son pied gauche n'a rien à voir avec son pied droit.
Et c'est là où il a mal ajusté cette frappe justement du pied gauche qui s'est envolée dans le ciel de Dessines. 0-0, 62e.
Merci messieurs, on revient vers vous dans un instant pour la suite de ce match. Va-t-il y avoir un but dans ce Lyon-Lorient? Le suspense reste entier, il est 18h23 et on se retrouve dans quelques instants. Merci monsieur Roy, vous avez été parfait ce week-end. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
18h27, vous êtes sur RMC, vous êtes bien, on est bien ensemble, non? Ça se passe bien Roland? Bon, on attend des buts toujours.
Ben oui, tu vois, s'il y avait un petit but.
Ouais, ça nous ravirait un peu, quoi.
Voilà. Mais bon, allez, il y a encore une petite demi-heure.
Ouais, t'y crois
ouais,
encore.
Ouais, j'y ouais, j'y crois.
Edouard, Jérémy, vous y croyez encore, vous?
Bien sûr.
En tout cas, vous êtes des éternels optimistes.
Il vient de rentrer à voir, je pense qu'une passe intelligente dans les 25 derniers mètres, là, ça ne m'étonnerait pas de sa part.
Allez, 0-0 toujours, 66e minute, et pour l'entrée de Oussem Aouar à la place de Corentin Tolisso, malheureusement qui ne peut pas faire plus de 64 minutes en l'occurrence sur ce coup-là. Et ben Oussem Aouar a une bronca XXL.
C'est pas si c'est refait mal.
Non, mais en fait c'est rare qu'ils finissent un match, et non, on l'a pas vu en tout cas.
Et Aouar s'est fait siffler.
Ah oui, c'est plus que sifflé, c'était une bronca majuscule pour, en sachant qu'il y a aussi une banderole pour lui et pour Dembélé avec son visage et marqué derrière dégagé. Voilà, le message est clair.
Et c'est Dejan Lovren d'ailleurs au passage qui a récupéré le brassard de capitaine que portait Corentin Tolisso. Le rush de Ryan Cherki se compte face à Laurent Abergel, il est aux 30 mètres, Ryan Cherki sur son pied droit, le tacle de Laurent Abergel, le gros retour, et Ryan Cherki qui s'effondre. On ne dit rien du côté de Thomas Léonard et on peut partir en contre côté Lorientais.
Ouais, et le ballon était hors de la surface de réparation, hein, donc pas de pénalty ou de choses de ce style. Ryan Cherki qui se relève, mais il y avait mieux à faire, parce que certes il avait fait l'accélération qu'il fallait faire, il avait mis dans le vent ce qu'il fallait, il avait mis ses coéquipiers en ordre de bataille, ouais, mais derrière
pas,
il y avait mieux à faire.
Pas complètement quand même. Ouais, la mise dans le vent.
Ouais. Oui, pas complètement, mais c'est vrai qu'il avait emporté un petit peu, il avait Barcola d'un côté, Amin Sarr de l'autre, il aurait pu les servir avant de se faire tacler. Changement du côté de Régis Lebris et donc du côté de Lorient, trois changements.
Triple changement. Avec les sorties notamment des deux ailiers, Stéphane Diarra remplacé par Igor Silva, la sortie également de Johan Kathleen remplacé par Julien Ponceau, et puis la sortie également de Jean-Victor Makengo, l'une des recrues hivernales pour l'entrée en jeu du neveu du coach. C'est Théo Lebris qui fait son entrée en jeu pour les 22 dernières minutes du temps réglementaire.
Très bien. 68 minutes de jeu, 0-0.
Ça va mieux la voix, Edouard? T'as sorti un petit coup de rhum, un petit grog, Jérémy, à la mi-temps, même pas?
Même pas, il a même pas ça sur lui.
Les gens du Forêt, ils sont pas.
C'est plus que c'était les gens du Forêt.
La verveine du Forêt, à la rigueur.
Très bien. Je suis sûr que Jeannot, il a toujours une petite fiole de rhum dans sa valise, au cas où la voix commence à dérailler. Mais il a la voix solide. Il a un organe puissant, notre ami Jeannot Rességué.
Qu'est-ce que j'entends? Non, pas de rhum, pas d'alcool. Juste quelques petites. Petite histoire d'ancien, quoi, voilà. Mais
on débrouille comme on peut. Raconte-moi comment tu fais pour préserver ta voix depuis 60 ans que tu commences les matchs.
Doudou, n'oublie pas que si Annecy va en finale, il faut que tu te préserves un petit peu quand même. Hein,
bah bon. Oui.
Il a commencé.
Il a déjà commencé. Il a Annecy, attention, c'est pas pareil, c'est pas le même lac quand même. Hein.
Non, du miel. Une petite mixture avec du lait, un jaune d'œuf. Enfin, c'est bien dégueu, mais c'est efficace. Je te montrerai, je te ferai goûter, Christophe, tu verras. Ouais, ça, et surtout quand tu prends ça à jeun le matin, t'es content.
M'étonne.
Ah, c'est une recette d'ancien, qu'est-ce que tu veux?
C'est comme ça, c'est avec les vieux, on a des bonnes
recettes. Bonsoir, sinon,
comment ça va, mon Jeannot?
Salut, Jeannot.
Cette incursion. Salut, coach, ça va?
Ça va.
Tout va bien.
Écoute, ça va, il fait beaucoup moins froid qu'à Paris. Ça va, on a une météo qui est plutôt clémente pour une belle affiche comme ce soir entre Rennes et l'Olympique de Marseille. À guichet fermé, 28 000 spectateurs, 1350 supporters dans le parcage visiteur de l'OM. Bref, un match attendu, qu'on peut résumer comme victoire obligatoire pour Rennes. Défaite interdite pour Marseille, ça vous va comme ça?
Ah ben écoute, oui, parce que là, ça a quand même été
ça semble gros match nul.
Une semaine horribiliste pour l'Olympique de Marseille qui, la semaine dernière à la même heure, avait des rêves de titres et des rêves de Coupe de France et qui, en 5 jours, a vu tous ses espoirs s'envoler. Enfin, pas tous. Il reste l'espoir, évidemment, de se qualifier pour la Ligue des Champions et ça passe par un succès ce soir. On va voir si les Marseillais ont réussi à se remettre de cette double déception.
C'est vrai, tu as raison, mais ça fait 4... Quatre objectifs quand même, la Champions League, même pas la troisième place pour l'Europa League, la Coupe de France après avoir éliminé le monstre Paris Saint-Germain et le titre de champion qu'on pouvait rêver dans cette même semaine. C'est vrai qu'il est indispensable maintenant de rester dans les trois premiers, si possible à la deuxième place.
Préserver le podium, effectivement, puisque Paris a gagné hier 63 points, et la chance, entre guillemets, pour Marseille, par rapport à cette 26e journée, c'est que Monaco et Lens ont été accrochés. Ouais. Oui, mais voilà, Rennes, 46 points, en cas de victoire ce soir, reviendrait à 3 points de l'Olympique de Marseille, donc ça veut dire quelque part que ce serait se mettre un peu plus de pression. Il y est certain que pour Marseille, il y a un sursaut d'orgueil qui est attendu après la défaite face à Paris en championnat, après l'élimination face à Annecy. On a entendu un Igor Tudor qui les a plutôt préservés, les joueurs, et ce sursaut d'orgueil est attendu. Pourquoi ? Parce que c'est pas un problème physique, c'est pas un problème technique, on va l'entendre de la part d'Alexis Sanchez. C'est juste simplement une question d'état d'esprit, retrouver cet état d'esprit pour les Marseillais.
Justement, tu parlais d'Alexis Sanchez qui a donné une conférence de presse très intéressante cette semaine, justement, où il s'est exprimé donc sur cette double défaite des Olympiens cette semaine. Alexis Sanchez.
Le groupe était énervé après cette défaite. Ce qu'il faut pour rebondir, c'est de faire un gros match dimanche pour montrer le gros club que l'on est.
Alexis Sanchez, donc un peu abattu et qui espère évidemment que l'Olympique va réussir.
On peut l'être à moins que ça, quand même. Puisque
c'est sûr.
Il y a aussi les Rennais qui, eux, ont été abattus de cette élimination-là après ce but à la dernière minute contre son camp. Les tirs au but et tout. Ça fait quand même des bosses sur la tête. Bon, mais entre équipes qui ont eu des bosselées, ben oui. On va voir un petit peu ce qui peut se passer.
Alors messieurs, Jeannot, avant de poursuivre, oui. Il y a un deuxième but pour les Reds, Johan.
Exactement, 2-0 pour Liverpool face à Manchester United. C'est reparti depuis 2 minutes dans cette seconde période. D'abord le centre contré de Mo Salah, et c'est Harvey Elliott qui reprend pour centrer sur la tête de Darwin Núñez, qui vient donc porter le score à 2-0. Liverpool fait le break à la 48e minute de jeu. 2-0 pour les Reds face à Manchester United.
À Lyon, toujours rien de nouveau messieurs, toujours pas de but.
Toujours 0-0, et toujours des sifflets. Cette fois, c'est pour l'entrée en jeu de Moussa Dembélé.
Ils aiment bien leurs joueurs. C'est ça qui
fait. Tu t'imagines le but de la victoire, passe de Aouar à Dembélé.
Je ne sais pas s'il se ferait siffler.
Ils ont 17 minutes pour cela, 0-0 toujours dans cette partie.
Vous nous rappelez au prochain sifflet. Jeannot Rességuier, donc Roazhon Park, pour ce match ce soir entre Rennes et Marseille. Alors, tu disais.
Je voulais mettre un bémol, si tu veux. C'est que depuis la défaite à Paris, le 16 octobre dernier, 7 matchs sans défaite à l'extérieur. Un vaincu à l'extérieur, un nul à Strasbourg, de partout, et 6 victoires d'affilée. Ce sont quand même des arguments pour les Marseillais ce soir ici à Rennes. La difficulté pour eux en ce moment, c'est qu'il va falloir, coach, qu'ils resserrent la garde, parce qu'en défense, c'est 10 buts encaissés sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour ce qui est de cette équipe marseillaise. Donc c'est vraiment la soirée où l'OM peut montrer qu'ils ont justement la capacité à réagir.
Rem Cherki, ça sera juste à côté sur ce 1-2 avec Johan Le Penant à l'entrée de la surface de réparation. Ils avaient fait le plus difficile quelque part, se libérer un peu d'espace dans la défense lorientaise, et on en reste à 0-0 à 16 minutes de la fin de cette partie.
La défense marseillaise en question.
Il peut pas rater ça.
Oui, alors là, on revient à Marseille.
Oui, avec cette talonnade de Ryan Cherki pour trouver Johan Le Penant à l'entrée de la surface de réparation. Il se défait du marquage de Julien Ponceau et d'une pointe de pied gauche. Ryan Cherki qui n'arrive pas à trouver le cadre de Vito Manone. Alors que côté Régis Lebris, on va faire rentrer Ibrahima Koné pour le dernier quart d'heure de cette partie. La sortie de Bamba Dieng est toujours 0-0 entre Lyon et Lorient.
Voilà, nous revenons donc à ce match entre Rennes et Marseille. Roland, Jeannot interpellé sur la défense marseillaise il y a quelques instants.
Oui, mais si tu veux, c'est tout un équilibre. Moi, j'appelle ça l'organisation défensive de l'Olympique de Marseille. Tu t'imagines que l'Olympique de Marseille choisit comme option, et ça marche quand même assez souvent, choisit comme option trois défenseurs. Je dirais trois arrières centraux.
Et c'est le troisième but pour Liverpool, le doublé pour Cody Gakpo. 3-0 pour Liverpool face à Manchester United à la 50e minute de jeu. Mossala lancé sur le côté droit qui va trouver son partenaire, son nouveau partenaire arrivé à l'intersaison en hiver. Cody Gakpo qui vient tromper David De Gea d'un subtil piqué. Il est magnifique ce but après ce contre-éclair de la part des restes de Jurgen Klopp. 3-0 donc pour Liverpool face à Manchester United. La démonstration des Reds.
Ça va plutôt pas mal en ce moment pour les Reds. Hein. Ils reviennent dans le coup là.
Ils reviennent un petit peu dans le coup. C'est vrai que la saison est très compliquée. On pense beaucoup à ce 5-2, hein, infligé un foot par le Real Madrid. Mais voilà, en championnat, tout n'est pas mort pour la 4e place qui qualifie directement pour la Ligue des Champions. Donc c'est très important. Là, Liverpool reviendrait à 3 points seulement de Tottenham avec un match en moins en plus. Donc voilà, il faudrait garder ce score 3-0 à la 50e pour Liverpool face à Manchester United.
Et ce serait la 4e victoire en 5 matchs pour les Reds qui mènent donc 3-0 face à Manchester. Roland, tu nous disais quoi?
Oui, je te disais donc. Il faut quand même se mettre d'accord qu'il y a certaines choses de logique. Quand par exemple tu choisis pour l'équilibre de ton équipe 3 arrières centraux, je dirais 3 défenseurs seulement, à partir du moment où les extérieurs sont assez hauts pour ne pas dire très hauts. Tu as 2 milieux devant tes 3 arrières centraux et tu as 3 joueurs offensifs, ce qui fait 5 joueurs offensifs avec tes deux pistons. Ce qui fait que si on pouvait mettre un nom à cette organisation, ça serait un 3-2-5.
Pour être
bien équilibré, normalement, ça serait plutôt un 5-3-2. Une pyramide, je ne vais pas faire une leçon de géométrie, une pyramide, c'est quand même c'est un dessin avec la base en bas et la pointe en haut. Là c'est comme une pyramide avec la pointe en bas.
C'est niveau Matspé là, Roland.
C'est quand même logique que de temps en temps, s'il y a plus dans tes 3 arrières centraux, il y en a un moyen, voire un très moyen, ou qu'il y en a 2 qui sont suspendus, ben il est quand même logique que de temps en temps tu aies des contre-performances. C'est le contraire qui serait pas normal.
Coach, ce soir, Bemba sera là, Bailly et Kolasinac. Balerdi va être quand même un peu celui qui va payer la facture de mercredi soir. Klos à droite, Tavares à gauche, Paulo Lopez dans les buts bien évidemment, Rongier, Veretout ou Guendouzi, puisqu'il y a toujours cette douleur à la cheville pour Veretout, et puis enfin Under, Sanchez et Malinovski. Donc voilà pour ce que pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler la composition marseillaise.
Et après, Christophe, je te rajouterai que ce qui est demandé aux joueurs, c'est de faire le pressing pendant 90 minutes, c'est-à-dire tout le match. Mais si tu as des trous de temps en temps, c'est le contraire qui ne serait pas normal. Donc ça, il faut regarder le bilan. Et moi, pour le moment, je regarde un bilan qui est quand même, malgré de grosses déceptions, un bilan assez positif par rapport à l'organisation de l'OM et par rapport à ce qui est demandé aux joueurs. Et maintenant, après ce match-là, ben, il y aura un match tous les 8 jours. C'est pour ça que, quel que soit le résultat, il restera 36 points à distribuer. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter outre mesure avec maintenant un match tous les 8 jours.
Est-ce que tu étais meilleur en géométrie ou en sport à l'école, Roland?
Géométrie, tu sais, par l'épipède, tout ça. Je me rappelle, après,
ils nous inventent des figures.
Quand j'expliquais à mes joueurs que le jeu en triangle, il me plaît, mais le jeu en losange, c'est deux triangles l'un contre l'autre, je préfère mieux, tu vois, ça restait des souvenirs de géométrie. La pyramide avec la pointe en bas, ne soyons pas étonnés que ça marche pas
tout le temps.
Bon, alors pour les Rennais, quelle géométrie pour les Rennais?
Victoire pour se rapprocher du podium, on le disait, creuser l'écart avec les poursuivants. Nice accroché à la GIA et puis Lille donc accroché à Lens, ça c'est le premier point. Dans la compo d'équipe, la base c'est le 4-4-2 pour Bruno Genesio. L'interrogation c'est de savoir si Doku sera partant, touché au genou. Alors pour l'instant on nous dit que oui, ça voudrait dire donc Mandanda dans les buts. Spence côté droit puisque Traoré est toujours blessé. Omari, Théat et Truffert derrière. Et donc pour l'autre ligne de 4, Doku, Bourigeaud, Santa Maria, Etoko et Cambi, Kalimundo et Guiri donc pour le secteur offensif. Si ça ne le fait pas pour Doku, ça serait un 4-3-3 avec Bourigeaud et son brassard de capitaine qui donc monterait d'un cran et on renforcerait le milieu de terrain avec Maillère et Doué. On aura la réponse un petit peu plus tard. Bourigeaud repositionné dans le cœur du jeu, c'est l'idée de Bruno Genesio parce qu'il a le sentiment que de par sa technique il peut apporter un plus, surtout depuis l'absence pour longue durée, blessure de longue durée de Martin Terrier.
Vous avez vu avec Jeannot et Roland, on a deux écoles. On a l'école algèbre et l'école géométrie. Chacun son camp et chacun sa partie. Merci Jeannot.
Si je viens dans les maths, moi, on est perdu complet là.
Ah non, t'es pas mal aussi, t'es pas mal.
Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure avec Xavier Grimaud.
Ouais. Avec Xavier Grimaud qui sera donc chargé
un peu à Lyon, là,
d'amener un peu de Rome pour le grand de Jeannot.
C'est un résultat, Jeannot Rességuier, 0-0. Aïe.
Et qu'est-ce que tu disais, Edouard?
C'est un résultat, Jeannot Rességuier, 0-0.
Ah oui.
Pourquoi? Pour rester sur la géométrie, on tourne en ronde, oui. Il y aura un corner quand même à suivre pour Enzo Lefebvre pour les Lorientais. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie.
Attends, on n'a pas la chance comme Johan Bredov de voir 3 matchs dans le derby d'Angleterre. Oh là là.
Ouais, 3 buts pour Liverpool en plus à Anfield. On n'est pas passé loin du 4ème à l'instant, la 56ème minute de jeu. Robertson qui reçoit le ballon en dehors de la surface, la frappe en roulé pied droit qui vient frôler la lucarne de David De Gea. 3-0 donc pour Liverpool face à Manchester United à la 57ème. Le doublé de Gakpo, le but de Darwin Núñez.
Il reste 9 minutes. 9 minutes pour enfin que l'on assiste au premier but de ce match entre Lyon et Lorient. Et on revient dans quelques instants pour vivre la fin de ce match frénétique avec Jérémy Donzé et Edouard G. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Allez, 18h45, ça commence à se réduire. Il ne reste plus que 7 minutes dans ce match, Edouard.
Moussa Dembélé pour Oussem Aouar, le tir d'Oussem Aouar, mais c'est largement au-dessus. Ça fait toujours 0-0 à 7
Lyon-Lorient,
minutes
on rappelle,
de la fin.
Ouais, c'est toujours aussi compliqué. C'est toujours aussi compliqué pour les Lyonnais de se montrer dangereux. On avait vu une belle embellie en tout début de deuxième période avec ces trois actions en 10 minutes, notamment les deux parades de Vito Manone sur des têtes de Maxence Cacré et de Corentin Tolisso. Il y avait eu un rush également de Bradley Barcola qui avait fini avec une frappe, qui avait fini loin, très loin du but finalement, l'Orientais. Et depuis, ça se complique un petit peu pour les hommes de Laurent Blanc qui peinent à trouver la solution malgré de nombreuses tentatives de part et d'autre dans cette rencontre, Edouard.
Ouais, parce qu'on note une dizaine de tirs chacun, hein, que ce soit l'Orientais ou avec ses ballons récupérés par Reinscher qui est à l'entrée de la surface de réparation, passement de jambe, le centre et la reprise, mais au premier poteau, c'est complètement manqué la reprise parce que c'est du genou de Moussa Dembélé. Le centre était trop puissant là pour le nouvel attaquant lyonnais rentré à la place de Amine Sarr il y a quelques secondes de cela. C'était un bon coup à jouer pour les Lyonnais avec ses passements de jambe et derrière le centre, mais c'est vraiment presque un tir, hein, de
dans les jambes de Moussa Dembélé. À mi-hauteur, c'est impossible à reprendre pour
ça me tente, coach.
C'est un centre-tir pour Moussa Dembélé. Ça arrive à hauteur de la hanche, du genou. Il essaye de mettre la cuisse en opposition en passant bien devant Meïté, mais ça ne suffit pas pour cadrer cette tentative. On s'est fait peur du côté de Montassar Talbi sur cette perte de balle, mais c'est déjà reparti de l'autre côté pour les Lorientais.
Avec ce ballon dans la surface de réparation, il n'y a pas de faute. Le ballon dégagé un petit peu à l'importe-pièce là par Rémi Rio. Ce ballon qui va être récupéré par Bradley Barcola. La grande enjambée de Bradley Barcola qui a dévoré tout le terrain, il va arriver aux 20 mètres et c'est au ras du poteau, mais à l'extérieur de celui-ci dans le petit filet. Oh, il avait fait une remontée fantastique depuis le milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation à grandes enjambées. Et voilà, il a pris sur le côté gauche là et finalement son pied gauche qui envoie le ballon
là,
dans le
petit vers l'intérieur
filet.
Pour essayer de se mettre en position de tir ou pour essayer de trouver une faute qui pourrait amener un pénalty.
Ouais, il y a ce bon retour de Montassar Talbi qui l'oblige à rester sur ce pied gauche. Il va pas pouvoir rentrer justement sur son pied droit et dans un angle fermé. Il n'arrive pas à réajuster la course de ce ballon et ça vient mourir dans le petit filet de Vito Manone. Les 5 dernières minutes de cette partie, toujours 0-0. Les Lyonnais à nouveau à l'attaque avec Nicolas Tagliafico sur le côté gauche.
Tagliafico, le petit passement de jambes, il va revenir sur ses pas, pas trop de solutions. Il est obligé de revenir derrière sur Maxence Cacré qui va jouer avec Ryan Cherki. Ryan Cherki qui va ouvrir. Il cherchait Moussa Dembélé, mais finalement il y a Talbi, le ballon qui va revenir dans les pieds des Lyonnais avec Maxence Cacré.
Les 11 Lorientais sont dans leur moitié de terrain. Les 10 joueurs de champ côté lyonnais également. Le siège, début de Vito Manone pour l'instant sans se montrer dangereux. Une bonne organisation côté Lorient et Maxence Cacré qui tente de perforer ce bloc. La récupération, le tacle de Enzo Lefebvre, la récupération d'Ibrahima Koné. Et on repart sur le rang central. La perte de balle trop rapide des Lorientais. C'est Ryan Cherki qui récupère ce ballon.
Ryan Cherki qui va mettre sur orbite Moussa Dembélé. Mais ce ballon est un petit peu trop excentré. Ça l'amène dans la surface de réparation, mais à l'extérieur de celle-ci, Castello Luqueba justement récupère le ballon, va centrer la tête là-bas de Sebawar, mais finalement complètement manqué cette balle parce qu'il n'avait pas le bon timing et le ballon de Castello Luqueba n'était pas précis par rapport au saut du numéro 8 lyonnais. Et du coup Manonnet derrière a pu récupérer, ça va repartir à fond de l'autre côté, toujours 0-0 à la 87e.
Avec les Lorientais à l'attaque, on voit l'agacement à nouveau sur cette action précédente de Laurent Blanc dans sa zone technique. Le ballon sur le côté gauche aux abords de la surface de réparation lyonnaise, côté gauche pour les Lorientais avec Théo Lebris qui repasse derrière jusqu'à Vincent Le Goff. Les Lorientais qui mettent le pied sur le ballon dans cette fin de rencontre pour essayer de souffler un petit peu, qui tiennent un point et qui laisseraient donc les Lyonnais derrière eux si on en reste là. Un point d'avance pour les Lorientais, 9e au coup d'envoi de cette partie. Les Lyonnais 10e seulement avec 38 points. Le ballon pour l'arrière-pied de Montassar Talbi qui sonne la charge au milieu de 3 lyonnais. Il va finir par perdre le ballon récupéré par Maxence Cacré. Il va d'ailleurs faire une petite faute. Non, on laisse l'avantage et ballon récupéré par Nicolas Tagliafico. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire.
Dejan Lovren qui va passer la ligne médiane. Il va attendre du soutien et on va en trouver de façon latérale avec Maxence Cacré qui, justement, lui, à ce moment-là, passe la ligne médiane. Il va trouver le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico, lequel revient sur Maxence Cacré. On va trouver un petit peu de profondeur sur le côté avec Oussem Aouar qui n'a pas trop de solutions. Il est obligé de changer le jeu sur Dejan Lovren, mais les Lyonnais qui jouent en reculant là. On va peut-être trouver un petit peu d'allant devant avec Maxence Cacré qui va trouver Ryan Cherki qui s'appuie sur Moussa Dembélé, le 1-2 entre les deux joueurs. Ryan Cherki dans la surface de réparation, le ballon qui revient sur la poitrine de Moussa Dembélé, le 3e ballon désormais pour Johan Le Penant et Maxence Cacré.
La talonnade à nouveau de Ryan Cherki pour créer ce décalage avec Nicolas Tagliafico qui revient intérieur. On est aux abords de la surface de réparation côté Lorient. On est sur le côté gauche. Maxence Cacré qui revient sur son pied droit, le centre et ça traîne dans la surface. Bradley Barcola qui ne peut pas reprendre et Vincent Le Goff qui dégage ce ballon en touche. 1 minute 30 encore à jouer. Le Groupama Stadium qui pousse les 38 000 spectateurs présents ce soir, mais toujours ce score de 0-0. Les Lyonnais à l'attaque à nouveau.
Il reste une, on va bientôt avoir le temps additionnel. Les Lyonnais qui insistent avec Maxence Cacré pour Johan Le Penant, pour Tagliafico. On est côté gauche et insiste côté gauche avec Ryan Cherki à l'entrée de la surface de réparation. Il emmène son ballon mais il glisse le numéro 18 lyonnais. Du coup ce ballon va finir en touche avec une touche pour les Lorientais à hauteur du poteau de corner. Il reste une minute plus le temps additionnel et les Lorientais
j'y crois
qui
plus. Je sais pas Roland, allez. Mais moi j'y crois plus. Roland.
0-0 toujours.
Tu sais, on en a vu d'autres. Oui. Mais je suis pas seulement en train de réfléchir s'il y a encore la possibilité de gagner. Je suis en train de réfléchir si on voit cette équipe de Lyon progresser. Ma réponse, c'est pour le moment non.
Non. Liverpool progresse. En revanche, au score, donc ça n'a pas bougé, Johan. Mais bon, déjà 3-0, c'est pas mal contre Manchester United.
Ouais, c'est même très bien hein, dans ce derby d'Angleterre. On connaît la rivalité entre les deux clubs, les deux villes. 3-0 donc à la 65e minute de jeu entre Liverpool et Manchester United. Eric Ten Hag qui a essayé de mettre du 109 quand même avec les rentrées de McTominay et de Garnacho, avec pourquoi pas justement l'occasion pour le jeune Argentin, seulement 18 ans, qui vient de faire son entrée en jeu. Et ça va donner un corner à suivre pour Manchester United. Pourquoi pas se relancer? Il reste encore 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire et Manchester menait 3-0 à Anfield. Le corner qui va être tiré par Bruno Fernandes, qui a eu de grosses occasions, notamment en première période, de la gauche vers la droite. Il va être tiré à deux ce corner. Bruno Fernandes qui récupère le ballon, le centre dans la surface de réparation, repoussé par la défense de Liverpool. Ça tient pour les Reds qui mènent toujours 3-0, et même c'est le contre qui va s'enclencher à 4 contre 3 avec
Darwin Núñez qui peut trouver devant lui. Il va louper sa passe, Darwin Núñez. Mais Mohamed Salah dans la surface de réparation. Le but, le quatrième pour Mohamed Salah. La barre en 30 du pied droit, s'il vous plaît, de la part de l'Égyptien. 4-0. La démonstration, l'humiliation pour Manchester United. Liverpool qui mène donc 4-0 à Anfield. Mohamed Salah qui vient mettre son but après les doublés de Gakpo et de Darwin Núñez. Le trio offensif qui a marqué 4-0 pour Liverpool à la 66e minute de jeu.
Ah là là, j'imagine que Edouard et Jérémy rêvent un jour de d'être correspondants à Liverpool. C'est quand même, ça procure quand même d'autres sensations, les gars. Hein.
Ah, c'est pas Anfield ici. C'est... On est rentré dans le temps additionnel depuis une minute. Il en reste deux encore à jouer, toujours ce score de 0-0. Les Lorientais qui tiennent un bon point ici à Lyon. Lorient qui, pour l'instant, pour la quatrième fois sur les cinq derniers matchs de Ligue 1, ne marque pas. Mais les hommes de Régis Lebris ont réussi à se montrer solides pour ne pas en encaisser, grâce notamment aux deux parades de Vito Manone en début de deuxième période. Ouais. Les deux dernières minutes donc, et toujours ce score de 0-0.
Roland, retour sur le but de Salah, fantastique. Hein. C'est volé magnifique.
C'est fantastique, en plus. Du pied droit, je crois quand même qu'il est gaucher, mais par contre son pied droit il est pas mal
aussi. 4-0.
Allez,
donc,
peut-être
Liverpool,
la dernière montée des Lyonnais avec Oussem Aouar pour Bradley Barcola. Il reste une minute dans cette action, dans ce match 0-0. Oussem Aouar au 20 mètres qui va tirer, et c'est directement dans les bras de Manon. Et donc il a tenté Oussem Aouar des 25 mètres plein axe, mais finalement ce n'était pas dangereux, même s'il y a eu un petit rebond juste avant que Manon ne se récupère le ballon. 0-0, il va rester une poignée de secondes dans cette partie.
Ah, elle a de la puissance, un peu de
Il peut encore avancer, se la pousser encore d'un ou deux mètres pour bien armer.
Attention, Julien Ponceau aux abords de la surface côté lyonnais. Les 40 et dernières secondes de cette partie, le long dans les pieds d'Igor Silva. Vincent Le Goff sur le côté gauche de la surface. Ibrahima Koné servi dans la surface, la frappe en pivot, et elle est déviée par Dejan Lovren qui a récupéré le brassard de capitaine et qui se plaint auprès de ses coéquipiers. Ce sera un corner, le dernier corner de cette partie très certainement. Il restera 20 secondes à jouer et la dernière situation, elle sera pour les Lorientais et pour le pied droit d'Enzo Lefebvre.
Ouais, dans un match il y a plus de 10 tirs de part et d'autre. Pour l'instant on a zéro but, c'est assez paradoxal parce que ce zéro est certes triste, mais il y a quand même une deuxième mi-temps assez intéressante. Le dernier corner de cette partie alors que le temps additionnel est dépassé pour les Lorientais. Ce ballon dans la surface de réparation, la tentative de bicyclette l'a finalement dégagé par Sinali Diomandé, Castello, Lukeba, peut-être en contre les Lyonnais qui vont pouvoir y aller. Non, Moussa Dembélé qui perd le ballon. Oura Football là peut-être avec le dernier ballon pour Maxence Cacré qui va trouver Ryan Cherki au 40 mètres.
Ouais, Ryan Cherki qui repique sur son pied droit, pressé par Laurent Abergel. Le nouveau tag de Laurent Abergel et on en restera là.
Ah ben on en reste vraiment là.
Ouais, oui.
Ah, les mecs ils font pas d'heures supplémentaires quoi. Coup de sifflet final, on s'en va, c'est terminé hein, Roland. T'as vu ça un peu?
Ah ben oui.
Hein? Ah là, ils sont de retour. Voilà. Je croyais que vous étiez déjà rentré à la maison les gars.
Non, on est là.
C'est 38 000 spectateurs qui sifflent, évidemment déçus. Et ça se vit très rapidement du côté du Groupama Stadium. Ce score de 0-0 donc entre Lyon et Lorient. Nouvelle déception pour les hommes de Laurent Blanc.
Ouais, les Lyonnais qui ont fait une première mi-temps insipide. Les Lorientais qui étaient assez intéressants. Au contraire de la deuxième où les Lyonnais ont vraiment été assez intéressants avec des grosses actions. Mais ils ont à chaque fois, notamment au début du deuxième acte, trouvé Manone sur la trajectoire, que ce soit Maxence Cacré ou Corentin Tolisso ou Bradley Barcola. Et au final donc ça fait 1-0 qui n'arrange personne, surtout pas l'OL qui voulait en gagner, passer devant cette équipe de Lorient. On en reste à 0.
Je maintiens, j'ai pas fait les comptes exacts, je maintiens que les matchs à venir, 3 ou 4 avant cette demi-finale, mais doit servir justement à Laurent de trouver la bonne formule. L'espoir de récupérer la casette sans être trop pressé, surtout qu'il ne rechute pas. Et après, on aura ce Nantes-Lyon qui sera passionnant avec un Lyonnais, avec les Lyonnais obligés d'être meilleurs qu'aujourd'hui.
Et Lille-Nantes et le PSG avant la demi-finale à la Beaujoire le 5 avril prochain. Lyon qui reste 10e, Lorient 9e à l'issue de cette partie 0-0 entre Lyon et Lorient.
Merci messieurs,
bon retour
à la maison. Merci Roland de m'avoir accompagné. Il est déjà parti Roland là aussi, plus d'heures supplémentaires, c'est terminé.
J'ai un deuxième match à voir comme ça, je vais me régaler.
Ah bah oui, j'espère qu'on va plus se régaler que dans le premier. Johan Bredov, donc toujours 4-0 pour Liverpool face à Manchester, il n'y a plus de suspense. On a mis les couleurs du dimanche soir, le rose, le mauve, pour fêter
fêter l'arrivée de JC et surtout de Marion. Comment ça va?
Mais oui, mais
bon,
ça va très bien.
Salut Marion. Bon, bonsoir. Alors, Lewis. Un peu dur enfin, aujourd'hui.
Je suis déçu, mais en ce moment, c'est pas ma fête. Entre l'OM, entre Lewis, ils sont tous en train de m'énerver. Ça commence mal cette saison. Ça va
mais,
pas
mais
du tout.
Mais on va quand
c'est
même avoir un beau programme dans Bartoli Time. Ah, juste vous poser une petite question. J'ai pas vu le match Lyon-Lorient. On peut mais le rediffuser
oui, oui, si tu veux, ouais.
Moi, je l'ai enregistré.
Ouais. Alors, on vous le conseille.
Tu me le conseilles?
C'est
une belle soirée. On parle de Formule 1. On parle de l'OM, on parle de Cyril Gane, de la polémique sur un parquet de basket en France. C'est dans Bartoli Time avec Marion Bartoli et ça commence dans moins de deux minutes. A tout de suite.